Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasiment seul de La Cellule aujourd'hui avec Johan Fichet.
Salut, salut.
Ça va la pêche?
Impeccable, la banane.
Ah, attends, tu nous fais saturer tout ça. Alors t'as quel micro? T'as le nounours?
J'ai le panda.
Oh la vache, pourtant tu vois, j'aurais pas cru que le panda ferait saturer à ce point là. Ça va Johan? De retour à La Cellule?
Impeccable,
pour nous jouer des mauvais tours.
Oui.
Qu'est-ce
puis,
que tu nous as
pouvoir
ramené,
se rencontrer dans le noir deux par deux et tirer son coup.
Et commencer par un doigt, a priori.
Oh. Eh bien, nous sommes également avec Flavie Briand. Flavie, ça va la pêche?
Je te pousse. Oui, alors, je précise que c'était pour savoir qui jouerait en premier. Mais je ne sais pas si c'est vraiment explicatif.
Nous avons utilisé une application, effectivement, il faut mettre le doigt là. Cette application que tous les joueurs de jeux de société utilisent, je pense, de France et de Navarre, où on met le doigt sur l'écran.
Sauf que quand je suis arrivée, on m'a dit « mets le doigt ». Et j'ai fait « où ?»
Est-ce qu'on est obligé vraiment de préciser tous ces détails à nos éditeurs et auditrices?
Je pense que c'est hyper important.
Ouais, moi aussi, je pense.
Je pense qu'ils s'imaginent plein de trucs en plus maintenant. Mais c'est quoi la cellule?
On est également avec Jérémy Clot. Ça va la pêche?
La pêche!
De retour, là cette fois-ci, enfin logiquement tu devrais pas être parmi nous. C'est le jeu qui t'a attiré à nous.
Ouais, bah, tu m'as un peu demandé, à dire, allez s'il te plaît! Mais j'ai dit oui, allez, ok.
L'autre, comment il transforme la situation, c'est pas ça. Johan a annoncé le jeu auquel on jouerait ce soir et tu m'as immédiatement envoyé un pavé de texte comme Darky pour dire que c'était formidable ce jeu qu'il fallait que t'en parles. Et du coup t'as fait les petites bornes pour venir nous voir, c'est comme ça que ça se passe.
Ok, on va prendre cette version-là.
L'histoire retiendra celle-ci.
En vrai, on lui a dit qu'Antoine, il avait apporté plein de trucs à bouffer. Il a dit, je veux goûter.
Antoine n'est pas là, je sais pas
c'est
qui
Johan.
Est
Antoine.
Pourquoi j'ai dit Antoine?
Je sais pas, mais c'est intéressant.
Johan.
Antoine, on pense très fort à toi.
Smith est venu.
Ce que je trouve génial avec Antoine, en plus, c'est comme il y a plein d'Antoine à La Cellule, en disant Antoine, on pense à toi, il y a probablement 10 personnes qui se disent qu'on pense à eux.
Antoine, on pense vachement à toi.
Et nous sommes également avec Géraldine. Géraldine, ça va la patate?
Ouais, la patate.
Alors toi, t'avais fait tes devoirs, hein, t'avais regardé ce que c'était que le jeu auquel
j'ai
on a
regardé,
joué.
J'ai regardé, ouais, effectivement. Quand j'ai reçu le mail, je me suis dit, bon, je vais pas faire comme... Bon, la première fois, non, parce que Pétrole, j'y avais déjà joué. Mais c'est vrai que...
T'as été intriguée.
J'ai été intriguée, je connaissais pas du tout. Et puis c'est des micro-games, je connaissais pas non plus.
Ah.
Donc du coup, je me suis dit, je vais aller voir un petit peu ce que c'est. Et donc j'ai regardé, effectivement, une petite vidéo YouTube qui expliquait un peu le jeu et où les gens se mettaient, du coup...
T'as triché, mais c'est intéressant. Donc, Johan, c'est toi qui nous ramène ce jeu qui s'appelle Revolver Noir et qui fait partie de la gamme des micro-games. Alors là, va falloir qu'on passe un peu de temps à expliquer tout ça. Qui se lance? Jérémy, Johan, c'est un peu vous.
Johan, vas-y, commence.
Les micro-games, donc, c'est édité par Matago. C'est des jeux en fait, qui sont au format carte poker traditionnel. Et ça se présente en fait, dans des tout petits portefeuilles. Et c'est généralement des jeux qui se jouent avec entre 18 et 22 cartes. En tout cas, ce que j'ai, c'est à peu près le nombre de cartes qu'il y a dedans. Et la majorité du temps, ça suffit à eux-mêmes. Donc, c'est des petits jeux qui peuvent être divers et variés. Donc, ça peut aller du petit jeu de coopération en mode placement et construction de ville, par des petits jeux où c'est des batailles de sorciers qui se lancent des pâtisseries à la tête.
C'est quoi le jeu auquel tu penses là? Vas-y,
La bataille des pâtis sorciers. Je ne l'ai pas apporté, mais c'est... Voilà.
Est-ce que tu sais combien de jeux micro-game est déjà sorti en français?
Je dirais une... de 20 et 30, parce que généralement il y a des petits présentoirs Matago pour ça et il y a des roulements, donc il y en a un par mois.
Je suis d'accord, je sais qu'il y en avait un par mois, mais pareil, je sais pas le nombre parce qu'on commence à en avoir
énorme,
un paquet
quoi.
Et c'est vrai que ça fait déjà quelques années à mon avis, donc peut-être à 40 ou 50. En tout cas, c'est peut-être l'objectif d'arriver jusque-là. C'est un petit défaut, on y reviendra, mais effectivement, j'ai presque envie ce genre de jeu. Il y a un numéro comme si c'était un livre de poche.
D'accord,
mais peut-être qu'ils ne l'ont pas fait pour des questions aussi de ne pas être piégés par la collection. Je pense que certains les collectionnent, mais c'est vrai que c'est toujours embêtant quand tu collectionnes que tu n'as pas le numéro 4, par exemple.
Ah oui, tu t'aurais voulu qu'ils mettent un numéro? Il y a un numéro ou pas?
En tout cas, pas sur le côté, il n'y a rien de visible direct.
J'ai un petit début d'explication. Parce que j'ai fait des recherches très intenses, notamment avant de venir, hein, la demi-heure avant de venir, j'ai fait des recherches sur le jeu parce qu'il y avait un point que je voulais voir, et c'est vrai que je suis tombé sur l'éditeur anglais Bud & Shy, qui est un tout petit éditeur anglais. Quand tu regardes sur leur site, c'est vraiment la petite entreprise familiale où il est tout seul avec 2-3 membres de sa famille à gérer le gazier. Et basiquement, c'est cet éditeur-là, anglais, qui a l'air d'avoir lancé les microgames et qui a trouvé Matago en France pour les éditer. Mais quand on regarde sur leur site de Button Fly, c'est exactement des jeux au format là.
Alors,
les mecs les font eux-mêmes.
Darky confirme ce que tu viens de dire, c'est vraiment ce gars-là, et même oh, j'ai son nom si tu veux, puisque Darky m'a donné son nom, il s'appelle Jason Tagmire,
oui,
donc qui a lancé, c'est ce que tu avais vu, ouais. Donc c'est une boîte familiale qui est menée par Jason Tagmire, me dit Darky, qui faisait des boutons avant. Alors j'imagine que les boutons, c'est quoi des boutons de quoi, enfin, des...
Je sais pas, parce que là je sais,
c'est sérieux, okay.
Je suis impressionné par sa faculté à retrouver des infos sur le net.
Il dit qu'il n'aurait pas pu exister sans les Kickstarter apparemment, donc des jeux qui sont apparus en partie grâce au système de financement participatif, hein, puisque vous le savez c'est ça Kickstarter, et donc leur créneau justement c'est ça, c'est les jeux minimalistes assemblés et envoyés à la main à la base.
Oui,
donc tout était fait en fait par eux-mêmes.
C'est ce que j'ai vu également.
Ouais.
Et pour compléter un peu ça, ils font également régulièrement des concours avec des contraintes fortes, notamment Revolver Noir. C'est ça que je recherchais comme information. Quelle contrainte a eu le créateur des Revolver Noir? Donc, pour information, c'est Xavier Davidson qui a créé Revolver Noir. Et il a participé à un concours fait par cette fameuse entreprise Button Shy.
Ouais, donc de Jason.
J'ai ça sur mon smartphone. Sur le challenge de 18 cartes. Donc c'est une chose qu'ils ont l'air de faire tous les ans, où ils demandent aux créateurs de jeux, bah voilà, vous nous faites un concept de jeu qui tient sur 18 cartes. Et là, la thématique, c'était designer un jeu qui n'a pas besoin de table ou de plateau.
D'accord, ok. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au final, il y a un plateau, mais il est dans la tête. Mais on aura l'autre dans Revolver Noir. Mais justement, c'est ça, il a dématérialisé le plateau, en fait.
Voilà.
Et il a fait d'ailleurs de la mécanique centrale du jeu, la dématérialisation du plateau, c'est quasiment la mécanique centrale du jeu, etc. Darky nous dit aussi que...
J'ai une vraie question, du coup, excusez-moi, je notais des notes. Du coup, c'est anglais à la base?
Oui, ouais. De ce que j'ai vu, c'est anglais.
Pourquoi ça te... Ok.
Oui, en fait, je notais les notes et ce que me faisait penser la partie. Et il y a un côté très protestant sur le principe dans ce truc. Je trouve le protestantisme, c'est le fait de pouvoir prier où on veut. Il y aura pas d'église, il y aura pas de tout ça. Et ni plateau ni table, ça me fait vraiment penser à ça. C'est vraiment très anglais, où on essaie vraiment d'avoir besoin que de la... C'est la reine qui a le droit d'avoir des propriétés, mais les gens, ils en ont pas. Enfin, il y a un vrai côté. Ça m'étonne pas que ce soit anglais. En fait, c'est le côté minimalisme, parce qu'en fait, ça va avec tout ce qui est religion, tout ça. Alors, je sais bien, c'est pas tout à fait le protestantisme chez eux, mais il y a vraiment un côté wasp dans tout ça.
L'église peut être partout et donc le jeu peut se trouver partout aussi. Enfin, il y a pas de... Ok. Waouh, tu vas chercher loin, mais c'est très intéressant, effectivement. Alors, il faut savoir que Flavie va chercher loin, mais l'auteur du jeu, donc ou le gars Jason Tagmire, là, c'est un mec qui va loin. D'après Darky, il avait une chaîne vidéo, donc un blog vidéo qu'il entretenait, où il décortiquait des jeux un peu comme à la cellule, les garages, où il allait vraiment profondément dans les mécaniques pour décortiquer les choses. Donc, on peut s'attendre à des choses précises.
Bah justement, ça fait partie des trucs dont je vais parler après. Ça fait partie de mes notes parce que pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui essaye de retrouver la quintessence de certains éléments de jeu pour en faire un jeu tout seul. Un peu comme dans le jeu de rôle, certains ont pu faire le narrativisme, etc. Et essayer de faire des jeux uniquement axés sur une façon de jouer. Là, pour moi, en fait, c'est ce qu'il essaye de faire avec ça, en fait. Mais on va en discuter après.
Ok, d'accord. Alors... Toi, juste pour reprendre le fil de la conversation, donc toi, Johan, quand tu m'as amené ce jeu, tu m'as dit j'ai envie aussi de parler des contraintes et du caractère, comment les contraintes nous rendent plus créatifs.
Voilà, bah en fait, comment des contraintes techniques peuvent se transformer en éléments de game design. et parfois même des éléments de game design centraux dans, dans un jeu. Après, c'est vrai que là, on va être, je pense, plus à parler de jeux de société, mais j'avais en tête aussi tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est jeux de rôle, etc.
Oui, bien sûr.
Ouais. Donc, après, c'est vrai que en te parlant de cette thématique-là au téléphone, j'ai tout de suite pensé à Revolver Noir, qui pour moi, en fait, remplissait pas mal de cases. J'avais pas encore la certitude à l'époque, bah, il y a une semaine de ça, quand on était au téléphone ensemble, qu'il y avait vraiment une contrainte qui avait été faite. Je ne savais pas si le jeu avait été fait par, je pensais, Matago, pour accoler à ce format-là, ou si c'était un créateur qui avait fait ce jeu et qui l'a proposé à Matago, parce que Matago fait ce format-là. Mmh. Mais du coup, c'est un peu un mélange des deux, vu que c'est même pas Matago, mais c'est la, donc,
Buttonshy, ouais,
qui a, comment ça s'appelle, créé des concours, hein, qui ont l'air d'être assez connus sur Internet, pour du coup dire à des créateurs de jeux, ben voilà, vous gagnez $100, déjà ça c'est de facto si vous êtes vainqueur, et potentiellement publié. Et à chaque fois c'est une thématique de 18 cartes maximum, ben 18 cartes, pas plus, pas moins, et une contrainte supplémentaire. Donc là c'était pour l'édition je ne sais plus laquelle, où c'était du coup pas de table, l'édition 2023, il faut que ce soit en rapport avec les vacances. Et en fait, il s'impose comme ça des contraintes supplémentaires au-delà des 8 cartes. Mmh. Et il faut que dans ces 18 cartes-là, on ne doit pas écrire sur la carte, on ne doit pas les déchirer, bref, on ne doit pas altérer le matériel, c'est vraiment 18 cartes.
Ça me fait vraiment penser beaucoup aussi aux concours de jeux de rôle qui sont faits régulièrement, les fameuses jams et tout ça, où les gens se donnent des contraintes, y compris des contraintes en termes de temps. C'est-à-dire, par exemple, je me souviens comme ça, Christophe Buckley, quand j'ai commencé sur Saint-Drift, il y avait les 24 heures du JDR. Tu avais 24 heures pour créer un jeu de rôle. Et tu as encore plein de jams comme ça qui existent, même dans le jeu vidéo.
Il y a plein de médias, effectivement. Je sais aussi que dans les courts-métrages, c'est le cas, les 48 heures pour faire un court-métrage. Je suis persuadé que tous les médias, ils doivent avoir un peu ce genre de défi. En BD, par exemple, genre, fais une planche de BD en une après-midi, ça doit raconter tel thème. Je connais pas le monde de la BD, mais je pense que tous les médias ont le droit à ce petit défi-là, et ça permet justement, effectivement, de dire, allez, faisons un truc dans lequel on n'aurait jamais imaginé. Il n'y a pas le problème de la page blanche, parce qu'on donne un thème, on donne une contrainte, et qu'est-ce que ça fait germer derrière ?
Ouais, exactement. Le côté aussi, je disais ça à Flavie, on en parlait récemment parce que justement Flavie et moi-même on avait été proposés pour des jurys de jeux de rôle, et Flavie avait fait partie d'un jury aussi. C'est qu'il y a le côté aussi, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à finir ce qu'ils entreprennent parce qu'ils n'ont pas de deadline, notamment en créativité et tout, et la deadline oblige à terminer les choses et donc à dire bah tant pis, ce sera pas parfait mais c'est pas grave, il faut que je le publie maintenant. Et voilà, c'est aussi un espèce d'encouragement à achever quelque chose même s'il n'est pas parfait, parce qu'aujourd'hui il y a une espèce de perfectionnisme ambiant, et notamment en France, on a eu l'occasion d'en parler plein de fois avec Flavie de ça, du fait qu'en France si c'est pas parfait t'oses pas le montrer.
J'irais même plus loin en disant, pas forcément qu'en France, je pense que c'est assez général, un biais assez connu dans tout ce qui est milieu du jeu vidéo, c'est que maintenant quand on voit certains développeurs indépendants qui sont absolument géniaux et talentueux, qui arrivent à faire des pépites, et généralement le petit développeur qui va vouloir faire son petit jeu, sa petite application, etc., va toujours se comparer à ces personnes-là et se dire « Ouais, non, mais si j'ai pas ce même niveau d'exigence, je serais mal reçu, etc. » Alors que le jeu est peut-être exceptionnel de base, mais le fait qu'il se compare toujours au biais du survivant, en fait, à celui qui a toujours réussi à se mettre,
Oui, il y a le c'est intimidant.
C'est pas le biais du survivant que je voulais vraiment dire, c'est vraiment ce côté. C'est comme tu dis.
Syndrome de l'imposteur. Enfin,
je fais un Metroidvania, il y a Hollow Knight qui est passé, il y a Sixon qui arrive. Bah, là, c'est foutu, en fait, j'aurais jamais ma place pour essayer de mettre le syndrome de l'imposteur.
Le syndrome de l'imposteur, oui. Sinon, donc, j'en finis après avec Darky, mais Darky nous conseille de parler de Sprawlopolis et de Circle the Wagon. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Qui, pour lui, sont les deux pépites. Donc, Sprawlopolis, est-ce que ça te dit quelque chose, toi ?
J'ai Agropolis, toi, t'as quoi ?
Et Megalopolis, et ça, c'est les versions originales. Ouais, les versions anglaises. Donc, je pense que ça parle de nos deux jeux, vu que c'est la même.
Sprawlopolis, c'est quoi, alors, du coup
Je sais pas, c'est aussi... C'est vraiment de leur Agropolis.
Ouais, alors Agropolis,
on va dire que c'est une sorte de SimCity, si je dois simplifier un peu les choses. On a une carte, chaque carte est découpée en quatre parties, au gauche, au droite, bas gauche, bas droite. Et derrière ces cartes, il y a des missions à faire. Je ne sais plus si on en sort deux ou trois, bon, bref. Ça met des contraintes et à notre tour, on va jouer les cartes et on a le droit de les mettre soit adjacents, mais je pense aussi, de mémoire, ça fait longtemps que je n'ai pas joué.
Faire se chevaucher.
On peut aussi les faire chevaucher, ce qui fait que du coup, on a vraiment en fin de partie des plateaux qui sont complètement différents. Et du coup, on va essayer de répondre aux contraintes pour gagner des points.
D'accord, ok. Et donc l'autre...
Et donc je viens de regarder Sprawlopolis, effectivement, c'est Megalopolis qui est là.
Ah, d'accord.
Mais ça regroupe en fait toute la gamme, Megalopolis, Agropolis. Donc il y a des extensions aussi qui permettent...
C'est le même système de jeu, en fait.
C'est le même système. Il y a des extensions qui permettent de faire des passerelles entre les deux. Et tu as des extensions pour les jeux propres qui sont également utilisables avec la passerelle là, etc. Donc bref, c'est une sorte de mini-écosystème, ça c'est rigolo. Ouais. Et effectivement, oui, c'est, comme tu as bien résumé, c'est un SimCity-like en fait, mais qui a aussi pareil, une sacrée profondeur, une sacrée rejouabilité en fait. Ouais. L'avantage, c'est que tout est condensé. Les buts, les objectifs sont d'un côté de la carte, comme tu disais, et de l'autre côté, c'est les cartes à placer. Et puis le but, ça va être de faire fructifier sa ville en suivant les contraintes faites par les objectifs pour réussir à remplir un maximum d'objectifs et avec les contraintes du jeu.
Si on devait faire un petit calcul, on a 18 cartes, donc on a 18 missions. Si on doit en tirer que 2, ça fait quand même un sacré nombre de possibilités de parties déjà.
Donc, parce que tout à l'heure, tu as dit que c'était de la taille d'un portefeuille. Moi, pour moi, c'est des porte-cartes. La taille réelle des jeux, je ne sais pas si on est d'accord là-dessus. Ça me fait beaucoup penser aux jeux, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était gamin, ça se présentait sous la forme de cassettes audio. Et on secouait en fait la petite cassette audio et il y avait un plateau en fait qui sortait avec des petits pions aimantés qui s'aimantaient en fait sur la cassette.
Oui,
et c'était des jeux
de
voiture.
De
moi, ça me fait vraiment beaucoup penser à ce type de procédé et ça renoue. Même visuellement, je trouve que ça renoue.
Moi, le
avec,
format qui me fait penser, c'est les Game & Watch.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est des jeux de société portables. On a presque envie de dire que ce sont des jeux de société portables, comme il existe des...
C'est même complètement portable, puisque comme tu dis, c'est une porte-carte ou portefeuille. Dans les deux cas, tu le portes. Et effectivement, tu peux en mettre plein dans les poches.
Et l'idée, c'était...
On a vu ça quand t'es arrivé.
Ouais. Il nous a dit, à votre avis, combien j'ai de jeux de société dans les poches? Il avait tous ses porte-cartes dans les poches, évidemment. Et au final, on ne sait même pas combien t'en avais, au final. Tu ne nous as pas répondu.
Non, mais je ne sais même pas.
Et à la fin, il s'est assis sur une chaise, il dit, oh, mais j'en ai encore un Enfin, bref, on ne va pas tout raconter. Alors, donc, voilà, donc, c'était pour présenter un petit peu, donc, justement, donc, l'éditeur Matago et aussi Button Shy, qui doit justement s'appeler comme ça, parce qu'il vendait effectivement des boutons.
Oui,
c'est incroyable,
oui,
ce truc.
Tout prend sens, en fait.
Ouais, c'est incroyable.
Merci d'ailleurs, Darky, pour les informations.
Ouais, c'est très... Merci beaucoup. Donc, Jason Tagmir. Et donc, du coup, là, ce soir, on a playtesté plus exactement Revolver Noir. Et c'est de Revolver Noir maintenant qu'on va parler. Si, bien sûr, il vous vient d'autres choses et d'autres jeux, éventuellement, auxquels ça vous fait penser.
On l'évoquera peut-être plus tard.
Qui veut se lancer dans la présentation de Revolver Noir? Flavie, je te sentais... t'as pris plein de notes. Est-ce que tu veux te lancer dans la présentation du jeu?
Moi, j'aime pas présenter, j'aime réagir.
D'accord, très bien. Alors, qui veut présenter Revolver Noir? Yo.
Donc, Revolver Noir, c'est un petit jeu de 18 cartes, hein, on l'a déjà évoqué. Les deux joueurs vont... Donc, c'est un jeu à deux joueurs, pas plus, pas moins. C'est vraiment une version duel. Même si j'ai vu dans un site anglais avant de venir, et je suis dégoûté de l'avoir vu a posteriori, que l'éditeur, donc Button Shy, a l'air d'avoir fourni une règle pour 4 joueurs. Donc ça, faut vraiment que je me penche dessus. Donc si vous avez Revolver Noir, il existe potentiellement une variante 4 joueurs sur le site de Button Shy.
Donc nous on a tourné là pour jouer les uns après les autres, chacun notre tour à deux joueurs.
Donc c'est dans la gamme duel des Matago. Donc c'est vrai que on n'a pas forcément dit, mais les petits jeux donc Matago, donc les micro games sont déclinés en plusieurs variantes. Hein. Il y a les jeux solo, les jeux coop, multi, etc.
Ils ont un code couleur aussi.
Exactement.
Pour suivant l'âge, non? Ah non, même pas. Non,
c'est suivant. Si c'est solo, il sera clair.
Ah, okay.
Si c'est coop, il sera vert. Si c'est duo, il sera noir. Et si c'est multi, il sera rouge. En tout cas, au départ, ça avait l'air d'être pas le cas, parce que j'ai vu que là, ton Megalopolis,
oui,
il correspond pas.
Il est un peu ancien, Megalopolis.
Mais
c'est
ils ont dû appliquer ce fonctionnement-là.
Et je te confirme que c'est le code couleur qu'il y a actuellement.
Ouais, ouais. Ok.
Et du coup, en fait, donc jeu de 18 cartes, donc 9 cartes par joueur. 9 cartes identiques, mis à part le Doe qui représente un personnage différent, hein, John Doe pour l'un, Jane Doe pour l'autre. Donc, les cartes vont avoir une description du lieu où le joueur se trouve. Donc, basiquement, si c'est la cuisine, on va avoir une petite illustration de la cuisine, le nom de la carte, les lieux où l'on peut se déplacer, les lieux où l'on peut donner un coup de feu, et une potentielle action à faire dans ce lieu. Donc pourquoi il faudra tirer sur l'hôte ? Il faut savoir que dans ce jeu, la petite histoire, c'est on est un détective qui doit, pour x ou y raison, aller dans un manoir abandonné pour essayer de trouver des preuves. Il y a une coupure d'électricité, il fait nuit noire, il n'y a pas de lune, bref, le sort s'acharne pour pouvoir s'y retrouver, et on entend un coup de feu. Là, on se rend compte qu'on n'est pas seul et que y a quelqu'un d'autre qui est avec nous, qui ne nous veut pas forcément du bien. Du coup, on ne lui veut pas forcément du bien non plus. Et il va falloir essayer de trouver où se trouve cette personne pour essayer de le dézinguer. Du coup,
c'est génial.
À partir des informations qu'il y a sur cette carte, donc pour rappel, le lieu où on se trouve, le lieu où on peut se déplacer, les lieux où on peut tirer, on peut faire différentes actions. On peut dire, je me déplace, donc ça, c'est tout bête. On regarde la prochaine carte où on peut aller, l'un des lieux où on peut
sachant
aller.
Sachant qu'il y a un plan qui résume très très bien les endroits où on peut se déplacer.
Voilà, un plan qui est toujours pareil sous forme de carte. Chaque joueur a un plan dans les cartes qu'il a, ce qui lui permet à tout moment de regarder plus ou moins la disposition des pièces. Comme ça permet plus ou moins d'avoir un repère visuel. J'ai cru comprendre qu'il était dans les environs là. Voilà. Ouais. Donc,
en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque carte représente un lieu. Je sais pas si tu l'as dit.
Si,
ok. Parce que c'est qu'en fait, chaque carte, en fait, le manoir est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces, si je compte bien.
C'est bien ça.
Il y a 8 pièces. Donc, dans la main, on a 8 cartes. 8 cartes qui sont les 8 pièces du manoir. La carte qui se trouve au-dessus, c'est-à-dire que vous avez un tas de cartes dans votre main qui est unie, en fait, que vous tenez en main. Et la carte qui est au-dessus, celle que vous regardez et qui est face à vous, évidemment, votre adversaire ne doit pas la voir. Et c'est la carte où vous trouvez. Donc, par exemple, là, je suis dans le foyer. Donc, en face de moi, il faut imaginer que je tiens la carte devant moi. J'ai la carte foyer devant moi. Sur la carte, il est indiqué 3 éléments. Petit élément, c'est ce que disait Johan tout à l'heure, c'est les lieux dans lesquels je peux me déplacer depuis le foyer, sachant que je le vois également grâce au plan. Deuxième élément, c'est les endroits depuis le foyer où je peux tirer. Et donc, si mon adversaire se trouve dans l'un de ces endroits, si je choisis de tirer dans l'un de ces endroits et que mon adversaire s'y trouve, il perd un point de vie. Et enfin, des petites actions spéciales que chaque lieu nous donne le droit de faire. Par exemple, dans la cuisine, parce que je suis en train de bouffer, j'ai le droit à une action en plus. Dans la bibliothèque, il y a un petit levier qui va inonder le sous-sol. Je raconte n'importe quoi. Il y a un panneau de contrôle dans le sous-sol qui permet de piéger n'importe quelle pièce du manoir, etc., etc. Donc en fonction des actions qu'on fait, on trahit un peu sa position, et c'est un peu comme ça, à force de faire des actions, qu'on trahit en fait les lieux dans lesquels qu'on a traversé, qu'on a piégé, et que l'autre peut faire. C'est un jeu de guessing en fait, où on doit deviner là où l'autre est et tirer au bon endroit au bon moment.
Exactement.
Voilà. Donc c'est très compliqué. Je me rends compte que c'est assez compliqué à expliquer sans le visuel des cartes.
Exactement.
Ouais.
Il est assez terrible pour ça. Après, il faut se dire que toutes les informations sont lisibles sur les cartes, en fait.
Ouais.
On est rarement pris à défaut en se disant « qu'est-ce que je peux faire ?» Toutes les informations sont données par la carte que l'on a en face de soi. Donc, une fois qu'on a compris les mécaniques de base, écouter les alentours, tirer ou faire une action, ça se fait plutôt bien. Quand écouter, par exemple, la mécanique est très rigolote, on dit à l'autre, écoute, j'écoute autour de moi pour un point d'action, sachant qu'on en a deux par tour. Donc, ok, tu écoutes.
C'est
donc
le déluge de.
Je vais devoir te révéler, en fait.
Je suis garé loin.
Je vais devoir te révéler un emplacement, une pièce où je peux me déplacer.
Ouais.
Donc, on ne sait pas sa position exacte, mais sa position potentielle.
Ouais, c'est ça.
Donc, à partir de ça, on va essayer régulièrement de deviner où se trouve la personne. Donc, en lui disant, j'écoute. Il y a certaines pièces, en fait, comme le hall, où C'est un lieu assez vide, donc il y a beaucoup d'écho. Quand on est dans le hall et qu'on écoute, donc c'est marqué foyer, tout en bas de la carte. Dans le foyer, ouais. Dans le foyer, exactement.
Dans le hall, il ne se passe rien.
Ouais. Dans le hall, il ne se passe rien.
Dans le foyer.
Dans le foyer, d'accord. Il y a beaucoup d'écho.
Le petit texte, c'est, ça nous dit...
Écoutez,
ben, voilà.
Pour 0 PA, si votre adversaire est au deuxième étage, il doit obligatoirement révéler son emplacement.
Voilà. Et donc,
il doit révéler son emplacement exact. C'est ça, exactement.
Du coup, il y a plein de petites actions comme ça qui vont permettre de plus ou moins deviner où se trouve la personne, ou même, comme dans le cas là, savoir exactement où se trouve la personne, et à partir de là, réussir à se positionner correctement et donner un coup de feu dans la pièce.
Après, sachant que du foyer, on ne peut pas tirer à l'étage, du coup, on est un peu frustré, parce qu'on se dit, bon, on sait dans quelle pièce il est, mais on ne peut pas tirer, donc il va falloir qu'on se déplace en se disant, de toute façon, il va se déplacer forcément à la prochaine action, donc voilà, finalement, bon. Ça nous donne une indication, mais ça, on ne peut rien en faire tout de suite, quoi.
Ça, c'est génial, parce que là, Géraldine, tu soulignes l'intelligence du level design, en fait, de quelles choses sont possibles en fonction des pièces. Et justement, c'est vachement bien fait, quoi. Il n'y a aucun moment où il y a une espèce d'indice direct qui nous dit exactement quoi faire et comment faire. C'est toujours un travail de déduction, à tout moment, voilà.
Où est-ce que c'est marqué sur la carte foyer qu'on ne peut pas tirer au second étage ?
Eh ben, en fait, on a les pièces où on peut tirer et
ah oui,
du coup,
okay.
Il n'y a pas
okay.
les pièces de l'étage.
Donc, si tu regardes la carte foyer, tu vois le petit flingue, il y a écrit foyer, donc ça veut dire que quand tu es au foyer, tu peux tirer au foyer. Salle à manger, ça veut dire que tu peux tirer dans la salle à manger. Et cuisine. Et si tu regardes sur
j'aime
le plan...
J'aime bien poser les questions néophytes, vous savez.
Non, mais c'est très très bien de poser cette question-là. Parce que tu vois, donc si tu regardes sur le plan le foyer, tu vois effectivement que tu es adjacent à la salle à manger, adjacent à la cuisine, tu peux tirer parce qu'il y a des portes en fait qui se trouvent à cet endroit-là. Par contre, il y a des conduits d'aération qui permettent d'aller au sous-sol. Bah là, évidemment, tu peux pas tirer du foyer au sous-sol, parce que même s'il y a un conduit d'aération qui va du foyer au sous-sol ou un escalier qui va du foyer au sous-sol, depuis le foyer, tu ne peux pas tirer vers le sous-sol parce que ta balle va ricocher sur le mur de l'escalier. Enfin, tu vois, tout ça est très cohérent. C'est assez impressionnant, très simple. Pas simpliste, très simple, très cohérent. Et voilà. Alors, si vous êtes vieux comme moi et que vous avez connu le jeu vidéo Spy versus Spy sur Famicom, est-ce que autour de la table, il y a des gens qui connaissent?
Oui, j'ai déjà eu l'occasion d'y jouer.
Tu y avais pensé à ça? C'est Spy versus Spy.
Ouais.
Ça, c'est Spy versus Spy en jeu de cartes. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que Spy, vous tapez Spy versus Spy en YouTube.
C'est aussi, moi, ça me fait penser à Mr. and Mrs. Smith hein, pour le cinéma. Surtout quand j'ai joué contre toi, Romaric.
Mais alors, pour moi, Spy versus Spy, c'est vraiment exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en plus, parce qu'il y a une mécanique qu'on n'a pas encore dite, c'est qu'on peut piéger des salles. Et dans Spy versus Spy, on peut effectivement laisser des pièges aux endroits qui peuvent potentiellement être fouillés par son adversaire. Donc, y a vraiment, la personne qui a fait ce jeu connaît Spy versus Spy. C'est sûr et certain. Il y a des mécaniques qui se retrouvent vraiment texto. Quand on piège... Alors, c'est là que c'est très malin. C'est que quand on piège une salle, donc dans les mains, on a un tas de cartes qui est droite. Non, les cartes sont droites. Voilà, c'est ça. Et quand on piège une salle, on engage... Donc, comme dans Magic, vous savez, on penche la carte à 90 degrés pour souligner le fait qu'elle est piégée. Donc, par exemple, si je suis dans le foyer... et que j'ai piégé la chambre, mon tas de cartes, concrètement, j'ai le foyer au-dessus, et mon adversaire voit que j'ai une carte engagée, il sait que j'ai posé un piège quelque part, mais il ne sait pas où. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je ne peux pas vraiment me trouver dans une pièce où il y a un piège de poser, ou en tout cas, si je le fais, du coup, la carte engagée se retrouve en face, et ça, c'est visible par le joueur adverse.
Ah oui, ouais, bien vu.
Donc, si je piège une salle dans laquelle je me trouve... Eh bien, mon adversaire peut le voir, sachant que dans la règle, il est bien précisé que je peux faire exploser un piège dans une salle où je me trouve, et que ça fait péter uniquement l'adversaire et pas moi. Là aussi, pareil, dans Spy versus Spy, on piège pas vraiment les pièces. On piège les endroits où l'autre peut se cacher, où l'autre peut cacher des éléments. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Nous, on a tout de suite imaginé une bombe qui pète.
Oui, voilà. En fait, non.
Mais non, en fait, c'est qu'on a, tu vois, la poignée est électrisée, par exemple. Tu vois, quand on ouvre le tiroir, il y a un truc qui nous
pète. Piège à loup.
Voilà, c'est ça, piège à loup.
Maman, j'ai raté l'avion.
C'est ça.
Voilà.
Tellement.
C'est ça. Donc
un fer à repasser qui te...
Ouais. C'est ça. Mon dieu. Alors, dans Spy vs Spy, c'est pas des fer à passer, c'est des sauts de flotte. Ah, oui. Tu peux piéger la porte en mettant un seau d'eau au-dessus de la porte, et donc du coup, tu te retrouves tout bleu. Enfin, voilà, y a des
ça a bien changé, James Bond, quand même. Hein.
Ouais, voilà. Bon. Mais après, Spy vs Spy, c'était un truc qui venait de Mad à la base, qui était le magazine. Enfin, il y avait un côté déjanté très fun là-dedans. Donc, qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, je voulais vous poser une question. Comment est-ce que vous opériez vos déductions ? Quelles ont été les stratégies que vous avez suivies les uns et les autres ? Flavie, peut-être d'abord, et puis Jérémy ensuite.
Moi, j'ai déterminé deux stratégies. D'ailleurs, lors de la première partie, j'en ai fait une. Lors de la deuxième partie, j'ai mélangé les deux. La première stratégie, c'est ce que j'appellerais la probabilité, où tu joues vraiment, tu essaies de voir ce que fait l'autre, d'essayer de projeter, en fait, de jouer au bluff pour voir la première fois où, dans quelle pièce il est, pour essayer d'éliminer des possibilités, de voir ensuite ce qu'il fait pour voir en fait ce qu'il utilise. Et ensuite, dans la deuxième partie, j'ai décidé de mélanger ça avec de la théorie de l'esprit. C'est-à-dire, je me suis dit, la théorie de l'esprit, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Les jeunes enfants n'en ont pas ou en ont une très petite, c'est le fait de pouvoir se projeter sur ce que l'autre pense, en fait. Par exemple, quand on commence à avoir de la théorie de l'esprit, quand y a deux sacs sur un canapé, en fait, devant un enfant, on va cacher le sac, son doudou dans le sac A. Y a un autre enfant qui regarde. Quand l'enfant dont on a caché le doudou, en fait, on va lui demander d'aller dans une autre pièce. L'enfant qui reste, qui regardait, on lui demande de changer le doudou de sac et de le mettre dans l'autre sac. Et on lui dit, à ton avis, l'enfant, quand il va revenir, il va penser que son doudou est où ? Si tu as de la théorie de l'esprit, en fait, tu dis, bah, il va penser qu'il est dans le sac A. S'il n'a pas de théorie de l'esprit, qu'il ne l'a pas encore développé, il va dire, bah non, mais il va savoir que c'est dans le sac B. Parce qu'il pense, c'est parce que ceux qui manquent de théorie de l'esprit, c'est ceux qui pensent qu'en gros, tout le monde pense comme eux. C'est-à-dire que tout le monde a les mêmes informations qu'eux. Donc, là, pour jouer dans la théorie de l'esprit, c'est on se projette en fait sur ce que l'autre pense.
Les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les informations dont ils disposent et les informations dont disposent les autres. Ils pensent que les autres disposent des mêmes informations qu'eux.
Et il y a des gens, même adultes, hein, qui n'ont pas de théorie de l'esprit. Hein. J'ai des exemples, j'en ai à foison, par exemple, un monsieur qui rentre chez lui et qui engueule sa femme parce qu'elle n'est pas partie chercher le pain alors que c'est jamais elle qui prend le pain. Mais quand il est allé à la boulangerie, il a vu qu'il n'y avait plus de pain, donc il s'est dit « ma femme va aller prendre le pain enfin, ». C'est véridique. Hein. Donc ça, c'est voilà, théorie de l'esprit. Donc se baser sur la théorie de l'esprit quand tu joues à ce jeu, ça peut être intéressant à mélanger avec de la probabilité parce que tu te dis « ok, je connais la personne en face de moi, je me dis qu'il va vouloir me piéger dans le cadre barrique en me faisant semblant de partir alors qu'il reste dans cette salle-là ». Enfin voilà, on mélange les deux, probabilité et théorie de l'esprit pour moi quand on joue.
Et puis on se connaît comme on se connaît très très bien. En fait, pour tout dire aux auditeurs et auditrices, on a fait une partie l'un contre l'autre et on s'est très très vite flingué parce qu'on se connaît tellement bien qu'en fonction de la pièce où l'autre se trouvait, on connaît déjà un peu les tricks et machin. Et enfin, on s'entretue très très bien avec Flavie, il n'y a aucun problème là-dessus.
Franchement, je trouve qu'on s'entretue de mieux en mieux, toi et moi.
On devrait faire ça plus souvent.
Ouais, je pense aussi. Donc voilà, moi je pense mélange théorie de l'esprit et probabilité.
C'est ouais, la fenêtre de Johari, tout ça, tout ça. Ce que je sais, ce que le groupe sait, et puis
c'est ça.
Ce que je ne sais pas, ce que le groupe ne sait pas. Et...
Jérémy, est-ce que tu avais identifié d'autres types de stratégies ?
Oui, alors moi j'aime bien faire n'importe quoi à ma première partie, notamment des stratégies un peu random, c'est-à-dire qu'on peut tuer directement avec une arme, on peut tuer avec un piège, mais moi j'aime bien tuer avec une troisième façon qui n'a pas marché, c'est utiliser les petits leviers pour essayer d'inonder la salle et tuer la personne en étant inondée. Ça a marché une fois, mais il faut faire perdre 2 points de vie, donc ça n'a pas marché non plus 36 000 fois. Mais c'est le genre de délire que j'aime bien dire, on pense pas à ce truc-là, allez, je vais inonder, juste pour le plaisir d'inonder.
Le mec ne veut pas dépenser ses balles, quoi.
Hein ? Ça coûte cher, les balles.
Tu rigoles, mais une mécanique qui pourrait être intéressante, c'est celle-là, justement. C'est de dire, on a X balles. Ouais. Ouais. Parce que moi, je trouve que la stratégie qu'on a employée, qui n'était pas vraiment une stratégie avec Flavie, de se tirer dessus à tout bout de champ, comme des sourds, voilà, elle pourrait être empêchée aussi par l'idée de dire, bah, vous avez que 3 balles et si tout le monde a perdu ses balles, c'est match.
Oui, faut que tu vas les chercher dans la chambre, tu remplis ton barilé dans la chambre parce que.
Ah oui, des trucs comme ça, effectivement. Mais en tout cas, de créer de la rareté de la ressource permettrait éventuellement d'en faire vraiment un jeu de déduction. Mais là, c'est pas justement le choix qui a été fait, c'est de faire en sorte que plein de stratégies différentes, à mon avis, soient possibles. Aussi, à mon avis, pour jouer avec des peut-être plus jeunes, justement.
Oui, puis malgré ça, ça reste un jeu rapide, parce que même nous qui avons fait n'importe quoi à la première partie et on ne s'est pas du tout écouté, enfin bon, et du coup, ça n'a pas duré non plus.
Je crois que vous avez fait la partie la plus longue.
On a fait la partie la plus longue, mais est-ce que ça a duré plus de 15 minutes?
Je crois pas, je pense pas.
Qui est le temps donné au maximum.
Et au bout de 15 minutes, ça vous a pas fait chier en vrai?
Non, ça va, mais c'est vrai que ça peut effectivement. On peut
ça
dire,
pourrait être sans
ça
fin.
Ça pourrait être lassant.
Ça pourrait être sans fin.
On était les premiers à jouer, et effectivement, on a vite compris qu'il y a quand même des lieux plus intéressants que d'autres. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on s'imagine, c'est ça la force du jeu.
C'est ça.
C'est qu'on voit quand même qu'il y a des lieux qui ont des pouvoirs, et si on les utilise bien, c'est un vrai avantage. Mais du coup, comme on sait maintenant que c'est un vrai avantage, il y a plus de probabilités que les personnes qu'on se retrouvent dans ces lieux-là. Ouais. Donc c'est là qu'on se retrouve vraiment dans le fameux guessing, de se dire « je sais que tu sais que je sais ». Et on va jouer sur cet aspect-là en disant « t'es dans la cuisine ». Parce que ça fait 4 fois que t'as mis les pieds dans la cuisine et t'aimes bien cette pièce-là. Alors que nous, on visitait sans vraiment savoir,
ouais,
on se trompait
ça.
Un petit peu à dire
«
alors je
tirais,
ah non,
encore,
je peux pas en fait », parce qu'on
on
était encore dans l'appréhension de la partie.
Mais justement, enfin, pour moi, c'est typiquement le type de petit jeu apéro pour se rencontrer, tu vois,
oui,
ou
c'est
pour
ça.
Lancer une soirée. Moi, je vois bien ça, ce type de jeu au début d'un mariage, jouer avec machin et rencontrez-vous, tu vois. C'est vraiment les petits jeux apéro pour se rencontrer, une petite murder party, en plus, la murder party du pauvre, entre guillemets, où tu as un petit côté comme ça qui fait un peu rêver gentiment et puis rapidement. Et puis ça reste malgré tout un jeu assez superficiel. Mais voilà, comme ce qu'on peut, on peut souvent reprocher, c'est comme il essaye d'arriver à une quintessence d'un tricks de jeu, d'un élément de jeu, en fait. Du coup, il perd aussi ce qui peut faire la richesse de jeu plus riche en termes de mécanique. C'est-à-dire que là, du coup, le but n'est pas que ce soit riche, que ce soit qu'on essaye de créer quelque chose d'énorme. Là, c'était un petit peu des sortes de jeux pour faire une expérience d'une mécanique de jeu et de retrouver une de ces quintessences-là. Aussi, je pense, pour faire réfléchir à ce que c'est le jeu, plus que pour vivre une grosse expérience de jeu.
Ben moi, j'ai un autre point de vue. Moi, je pense que plus on joue à ce jeu-là, et plus on joue pas pareil.
Ouais, je pense que
pour 10 parties du jeu, on joue pas pareil que les 2-3 premières parties qu'on a fait. Et au bout de 50 parties, quand on maîtrise bien le jeu, on joue encore d'une autre manière. Ça m'a vraiment fait penser à Love Letter. C'est pour moi un peu... Love Letter aurait
pu... Love Letter,
Love Letter, c'est un jeu japonais. Toi, tu pensais à... à l'inspiration protestante du jeu. Moi, ça m'a fait penser à la vague japonaise. Parce que les Japonais, ils ont des petits appartements. Donc, ils adorent faire des petits jeux. J'en ai deux, là. Donc, c'est vraiment des fois des petits formats comme ça. Et franchement, Love Letter, c'est 16 cartes, là, des petits pions. Et encore, les pions, c'est pour compter les points. On n'a pas vraiment besoin des pions pour jouer. C'est vraiment les cartes. C'est 16 cartes, je crois, le jeu de base. Et j'ai vu en soirée jeu 3 ados passer 3 heures dessus. Alors que les parties, c'est 5 minutes. Donc ils ont enchaîné. Et c'est vrai que du coup, pour connaître un peu le jeu, pour avoir un peu poussé aussi des fois, je sais très bien comment ils jouaient. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est plus les cartes qu'ils jouaient. C'était vraiment pour le coup du guessing. En disant, je joue ça pour te faire croire que j'ai ça en main. Mais en fait, j'ai pas ça. Mais si, en fait, je l'ai. Et encore une fois, c'est à 2, 3, 4, 5 couches de niveau. Et je pense que Revolver Noir rentre là-dessus. Je dis pas non plus que c'est le jeu de l'année avec les plus grandes profondeurs. Mais je pense que ce jeu, si un couple s'amuse à y jouer, par exemple, tous les soirs, bah, au bout d'un mois, les parties doivent être complètement dingues.
Moi, ça me fait beaucoup penser au... Alors, ce que tu disais, Flavie, ça me fait beaucoup penser au Pico Games de Valentin Touzeau, évidemment. C'est-à-dire donc des jeux qui playtestent une mécanique et qui la playtestent à fond. C'est-à-dire une boucle de gameplay et qui vraiment va la playtester à fond. Et ça va dans le sens de toute la théorie développée par Buttonshy, quoi, qui est d'explorer une mécanique, de faire des vidéos sur une mécanique précise et tout. Pour autant, moi, c'est marrant parce que je suis pas d'accord avec Flavie, mais pour des raisons différentes de celles de Jérémy. Toi, tu dis, en gros, c'est typiquement le genre de truc que Darky aime bien dans les jeux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on maîtrise en fait la mécanique d'un jeu, on peut se dire, oui, mais comme l'adversaire maîtrise la mécanique d'un jeu, il peut se douter que je vais aller dans la cuisine, donc je vais prendre le contre-pied d'aller dans la cuisine. Oui, mais sauf que moi, je te connais par cœur et je sais que tu vas prendre le contre-pied de... Et tu vois, il y a des couches comme ça de guessing, de méta-guessing, de contre-guessing et compagnie. Et ça, pour moi, je trouve que c'est pas de la profondeur, ça. Ça, moi, c'est le genre de truc, en fait, au bout d'un certain moment, en fait, je sais pas pourquoi, ça me fait un peu chier. Je trouve ça un peu vain, tu vois. Je trouve ça un peu... c'est pas le genre de jeu qui me titille le cerveau. Mais je pense pas que Revolver Noir soit ce genre de jeu-là. Je pense qu'en fait, Revolver Noir a, au contraire, de la profondeur pour plusieurs raisons. La première, c'est pour le lore, en fait. Très rapidement, enfin, moi, en tout cas, quand j'y ai joué, j'ai trouvé que le fait qu'on soit dans un manoir, l'écoute et tout... À un moment donné, j'arrêtais de dire juste « c'est la cuisine ». Je disais « tu entends du bruit dans la cuisine ». Et tu vois, il y a un petit côté comme ça, on peut aussi voir une couche d'univers. Et je trouve que pour des gens qui ont une intelligence, on va dire visuelle, palais mental, imagination, les rôlistes typiquement, qui sont pas dans la mécanique, tu vois, mais qui vont vouloir vraiment imaginer des lieux, machin, et ben je trouve que le jeu apporte une forme de récompense à ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, comme tu l'as dit, comme vous l'avez tous dit autour de la table, on finit par connaître le manoir. Et pourquoi on le connaît? Parce que, par exemple, certains vont utiliser des souvenirs, par exemple de dire « Tiens, oui, je sais que dans la chambre, il y a ce levier bizarre, et du coup, j'essaye d'imaginer une chambre dans laquelle il y a un levier, et machin. » Et en fait, l'imagination va te servir de palais mental et va t'avantager, en fait, là où un autre joueur aurait peut-être plus de mal à se souvenir de ce que font les pièces. Là où un calculateur va se dire « Non, je vais calculer les probabilités de quelle pièce est la plus optimale, machin, truc, etc. » va voir que des maths et des probas et des stats. Celui qui a le plus d'imagination va trouver un avantage au fait d'imaginer vraiment les pièces, etc. Et pour moi, en fait, le jeu donne un théâtre à la confrontation de plusieurs types d'intelligence et de plusieurs types de façon d'aborder le jeu. Et c'est là que j'y vois de la profondeur. Pas dans le guessing contre guessing qui serait uniquement la dimension calculatoire et contre-calculatoire, si j'ose dire, mais aussi dans le fait que le jeu se laisse aborder sous plusieurs types d'intelligence ou de façon de voir. Par exemple, tu prends des jeux de... Je pensais à un jeu de deck building dont on parlait récemment avec Globo et que m'avait fait découvrir Adrien Cahuzac, qui est Race for the Galaxy, qui est un jeu dans lequel le fait de respecter l'univers du jeu va faire que tu vas prendre des cartes qui sont en lien avec ta faction et qui va faire que tu vas être récompensé, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte, même quand t'es un peu con et que tu, en gros, t'as pas la puissance de calcul de savoir quelles cartes sont OP et tout, si tu te fies uniquement à l'univers, tu dis « bah attends, je suis un marchand, donc j'ai besoin des banques », tu vois, c'est logique. Tu vois, je suis un marchand, bah j'ai besoin des taxes. Tu vois, et bah si tu joues comme ça, tu prends les cartes taxes, tu prends les cartes banques, tu dis n'importe quoi, et c'est pas ça dans Race for the Galaxy évidemment, mais tu prends ça, et bah du coup tu vas te rendre compte que ton deck il marche. Autrement dit, le jeu se laisse aborder par quelqu'un qui veut d'abord le lore et quelqu'un qui veut le calcul de façon similaire. Et je trouve que dans ce jeu-là, il y a ça aussi. C'est là que je vois plus de profondeur que juste explorer une mécanique. Je pense qu'on peut aller plus loin avec ce jeu-là. Peut-être même, je sais pas, ajouter une musique d'ambiance, imaginer des bruits de bois, tu vois.
Bah carrément, ça c'est jouable. Hein. Et là, pour rajouter, je pense qu'en fait, effectivement, les deux se partagent bien. Et ce qui fonctionne, c'est que comme chaque lieu a vraiment son petit pouvoir, chaque moment peut être une petite saveur. Parce que chaque lieu a sa petite stratégie en disant « Hey, je suis ici, allez hop ». Je suis dans la cuisine, j'ai 3 points d'action, c'est beaucoup plus de liberté pour se déplacer. Ou alors c'est une manière de me déplacer et de tirer parce que je pense savoir où tu es. Rien que dans la cuisine, tu vois, j'ai 2 exemples, si ça se trouve, il y en a d'autres.
Flavie.
Mais il n'empêche que moi, j'ai eu un petit peu de frustration, notamment sur la fin du jeu, où juste, bah, t'as tué l'autre et t'as gagné, ça s'arrête. Et c'est en ça, en fait, que je trouve que il manque un petit truc. Si c'est juste ça... Alors, c'est évidemment la release qui parle, hein, mais, moi j'aurais bien aimé par exemple pouvoir fouiller la personne et trouver qui elle était, tu vois. T'as un début où on dit ah t'es poursuivi par machin et tout.
Et on n'a pas la fin.
Et en fait ça fait.
Alors peut-être.
Justement.
Ah.
Il y a une extension officielle sur Button Shy où il y a des rôles.
Ah voilà.
Et à partir de là, tu peux te rendre compte que t'as dézingué un mec qui était de ton côté, alors que t'es 4-2. Et en fait, il n'y avait pas besoin. Et en fait, j'ai pas du tout les détails. C'est pour ça que je suis vraiment... je trouve ça très dommage que j'ai vu ça que très récemment, qu'aujourd'hui, qu'il y avait ces extensions-là, moi, cette extension-là, où du coup, effectivement, tu as des rôles. Et de ce que j'ai lu, donc chaque rôle va rajouter des mécaniques supplémentaires. Et à partir de là, tu vas pouvoir déduire si le rôle de la personne et savoir s'il faut le désinguer ou pas.
Ça tient sur 4 cartes. Là, pour le coup, c'est un jeu qui pourrait me botter parce que là, moi, ce que j'ai noté dans mes notes, c'est... En gros, là, le truc que tu gagnes, c'est le fait de pouvoir se vanter d'avoir mieux retenu que l'autre le manoir et d'avoir réussi à lui tirer dessus. Pouf, je m'avais marqué, mais on pourrait découvrir une histoire. Et là, pour le coup, ça fait vraiment une vraie motivation de jeu, quoi. Enfin, c'est vraiment super. En plus, un petit côté genre, je suis caché, je ne vais pas te dire qui je suis, mais peut-être je suis ta mère ou ton frère caché. C'est trop bien. Enfin...
Et pour rebondir un peu sur ce que tu dis, moi, une frustration que j'ai eue sur ce jeu, c'est le fait qu'on ait 2 points de vie. Il n'y en aurait qu'un seul point de vie, pour moi ça rajouterait encore de l'intensité à la partie. Là, le fait de perdre un point de vie, ben ok, quand tu as réussi à toucher l'autre une première fois, bon, tu es récompensé sur le fait de te dire bon, ben voilà, c'est bon, je l'ai touché, il me reste une fois à le toucher, mais c'est tout, il n'y a pas une vraie sucette derrière, c'est vraiment j'ai touché. Ok, le mec, il peut se déplacer pareil, il peut faire... On ne sait pas exactement.
Ouais,
on
pourrait laisser des traces de sang.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est alors que, et puis même, on pourrait avoir un premier point sur qui il est, gagner un doigt ou qu'il a un handicap. Ou
exactement. Quelque chose qui la seule chose que j'ai remarqué, et ça, je l'ai vérifié sur les autres parties, c'est pour ça que je ne voulais pas trop participer aux parties, parce que ça me permettait de voir un peu comment ça se faisait, c'est que dès le moment où une personne n'a plus qu'un seul point de vie et que l'autre en a 2, il va avoir plus tendance à aller à la cuisine pour avoir un point d'action supplémentaire et contrebalancer le fait qu'il n'y ait qu'un seul point de vie. J'ai remarqué ça. Les gens vont plus rapidement vers les pièces
quand il n'y a qu'un
seul point de vie.
Parce que je savais que du coup les autres se diraient ça, alors du coup je suis passé partout sauf par la cuisine.
Ouais. Mais mis à part ça, c'est le seul bonus que l'on a quand on a touché l'autre. Ouais. J'ai trouvé ça très décevant. Mais bon,
oui, et après... au final, tu vois, la vidéo que j'ai regardée donc pour voir un peu comment se jouait le jeu, eh ben, ils l'ont fait en un point de vie.
Ouais.
Ils ont dit, on le fait en un point de vie parce que, bon, au final, voilà, en gros, le deuxième point de vie, ça va être la même mécanique, donc on vous le présente qu'en un tour, quoi. Mmh. Donc, bon.
Je pense qu'il y aurait moyen de vite fait de faire une variante du style des cartes retournées avec les traces de sang en disant, tu es obligé de laisser une carte visible là où tu es passé au tour précédent, quelque chose comme ça, pour dire, ok. T'as pas fait demi-tour, c'est pas possible parce que je vois ta carte au dos et c'était le foyer, un truc comme ça.
Moi, ça me fait penser vraiment à du point and click aussi, tu vois, avec ce côté, tu vas dans des salles, d'ailleurs, c'est très saccadé, ça me fait penser à du Shadowgate, ce genre de vieux jeu vidéo où tu te
Bienvenue à Château Aventure.
Alors, c'est quoi Château Aventure? Vas-y, présente-le.
C'était un jeu de rôle où, en fait, t'étais perdu dans un parc d'attractions, si mes souvenirs sont bons. Parce que
c'est un simple château.
C'est un simple château.
En fait, t'as plusieurs scénarios. Mais le château aventure, c'est un peu médiéval fantastique et tu dois aller au château.
Tu dois aller au château et donc le maître de jeu, tu lui dis je vais à droite ou à gauche et puis il va décrire les salles par lesquelles tu passes, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça.
Mais alors attends, il y a un truc que je comprends pas. Château aventure, c'est une extension de Parsley Game?
La même chose, hein.
C'est les mêmes choses. Ouais.
En fait, Parsley Game, c'est le jeu original et il a été réédité en Château Aventure.
D'accord, ok. Parce que c'était ça, parce que je me souviens que c'était Ludovic Papaïs qui nous avait fait jouer à ça à l'époque où il était éditeur de jeux de rôle à la boîte à eux. Ça s'appelait la boîte à eux à l'époque, il l'avait fait traduire. Je crois que c'était un jeu américain à la base, hein, Parsley Game. Et donc voilà. Et donc j'ai jamais trop compris le lien entre Château Aventure et Parsley. Mais c'est ça, c'est Château Aventure est un supplément en fait pour Parsley Games.
Même pas un supplément, c'est le même jeu.
C'est le même jeu, ok. C'est juste une traduction française de Parsley. Ok, d'accord. Donc, effectivement, moi, j'ai ressenti ça. C'est-à-dire le côté, tu te déplaces dans une pièce, tac, t'as le décor qui change, t'as la scène. C'est le genre de jeu qui n'aurait pas peut-être pas pu exister sans le jeu vidéo. Là, dans ces jeux-là, on voit bien l'échange entre les médias. Tu vois, j'ai l'impression que si tu n'avais pas eu des jeux vidéo avant pour exister, ce genre de jeu n'aurait pas existé. Tu vois, il y a un échange constant qui se fait entre les deux médias.
Il y a un côté Cluedo sur les cartes, en fait, parce qu'on voit encore
les empreintes,
je trouve.
Les lieux vus de dessus.
Et puis la manière, le fait d'avoir le manoir, de changer de pièce, etc.
Ouais, ouais, et c'est, comme tu dis, les jeux vidéo, les roguelike aussi, comment il s'appelle, machin, Fizak.
Binding of Isaac.
Ouais, donc du coup, tout simplement Zelda, d'avoir cette idée de on se déplace, et ça fait, c'est comme si on changeait de salle, comme si on scrollait.
Mais là, pareil, ça c'est dans Spy vs Spy. Dans Spy vs Spy, t'as la vue, alors elle est pas vue dessus. Elle est isométrique, c'est une 3D isométrique si tu veux, mais t'as comme Solstice ou ce genre de jeu, enfin non même pas parce qu'elle est vue de face, alors que Solstice c'est de trois quarts, mais c'est exactement le genre de truc. Là aussi pareil, on a une influence patente à mon avis de Spy vs Spy, clairement. Tu voulais ajouter quelque chose, Johan, avant que...
Non, c'est...
Moi il y a, enfin, comment dire, il y a quelque chose qui me marque, c'est que tu me dis souvent, Jérémy, quand on discute ensemble, qu'un jeu de société, c'est joué en moyenne 7 fois, tu vois, dans une ludothèque, toi tu l'observes, dans les foyers, et depuis que tu nous as dit ça, avec Flavie, Soren et Pandore, souvent on fait attention un petit peu au nombre de fois, et ça tombe juste, c'est incroyable comme ce chiffre, il est... Tu confirmes ?
Je confirme.
Et toi, qui a pas mal de jeux chez toi.
Eh ben, moi, ça dépend. Jouez beaucoup, mais oui, on joue beaucoup nous. Et après, on va avoir des périodes en fait, et ça va être aussi en fonction du temps. Enfin, l'été, on va jouer à des jeux qu'on jouera plus l'été, et l'hiver, on jouera d'autres jeux. On jouera à des jeux plus longs, par exemple l'hiver. Ouais. Alors que l'été, ce sera des jeux courts de cartes, des petites choses. Mais c'est vrai que non. Par contre, nous, on joue beaucoup. Voilà. Et après, on n'a pas une ludothèque, mais on va beaucoup à la ludothèque de Dol à côté pour emprunter des jeux et pour tester des nouveaux jeux. Mais c'est vrai que quand on en a à la maison, on joue beaucoup.
Et ouais. Ça, c'est quelque chose, un phénomène qu'on observe aussi quand on a des enfants chez soi. Je pense... enfants sont très monomaniaques.
Ouais,
il y a des moments
c'est
où ils vont vouloir jouer.
Et je pense que c'est ça aussi.
Oui,
c'est que moi, j'ai deux filles et clairement, ma petite, elle a 5 ans et elle veut jouer que au Uno et au Skaijo. Donc on ne joue qu'à ça.
Mais tu vois,
ouais, on a beaucoup joué au Skaijo.
Voilà.
Mais tu vois, même Soren, qui est assez monomaniaque aussi, il a joué, je crois, une dizaine deux fois à Minecraft, le jeu de société, ont pas plus, hein. Je crois que même, je me demande si on n'est pas à 7 fois tout pile, tu vois. Et donc du coup, ça tombe quand même dans l'escarcelle et dans la moyenne de Jérémy. Et d'où, question, est-ce que tu penses pas que ce genre de jeu a plus de chances d'être joué plus de 7 fois que n'importe quel autre jeu?
Mais parce que c'est un jeu, justement, que tu peux emmener partout.
Exactement.
Comme le Skaijo ou le Uno. C'est des jeux que tu peux emmener partout. Et à partir du moment où tu l'emmènes partout, bah, justement, t'as 10 minutes à attendre ton train. Allez hop, on fait une petite partie.
C'est un jeu qui est très époque actuelle. Je veux dire, on est dans une époque où on doit faire vite, on n'a pas de temps.
Mmh, c'est ça.
Mmh. Il faut jouer vite. Même moi, ce soir, à la base, j'étais pas censée être là parce que j'étais défoncée de fatigue. Et ce qui me l'a vendu, c'est que c'était pas long, quoi. Et en fait, malheureusement, en ce moment, on n'est pas dans une société qui nous vend du temps, en fait. Donc là, quand on peut se dire qu'on va jouer pendant pas longtemps, bah déjà, on va pouvoir jouer un peu, quoi.
Oui, on est loin de pétrole, c'est sûr.
Ouais, c'est ça. Alors que pétrole, on aurait joué pendant des heures si on avait pu. Je pense que la partie de 5 heures nous aurait tellement fait plaisir.
Si on avait tiré des coups de feu dans pétrole, on aurait tous explosé.
Ouais, c'est vrai. Et en même temps, c'est des jeux qui sont... Enfin, c'est un jeu, là, qui, pour le coup, me parle, le côté... On a besoin de rien pour jouer, même pas
c'est
de
ça.
Temps.
Mmh.
En fait,
pas de mise en place.
Ouais, et puis je suis désolée, mais en fait, le temps, c'est un truc de riche, en fait. Ouais. Et là, en fait, il y a très peu de gens qui le sont maintenant. Donc,
et les jeux sont pas très chers, en plus, c'est ce que tu disais.
Bah, c'est, en fait, il y a plein d'intérêts dans ces petits jeux-là. Et je pense que s'ils apparaissent maintenant, c'est parce que le marché du jeu de société aussi a bien évolué. Mmh. Et ça devient compliqué quand on commence à avoir une ludothèque qui se remplit et qu'on se dit « Ah, j'ai une armoire remplie, j'ai un ami qui est comme ça, qui a vraiment plein de jeux de société et qui du coup préfère acheter ce genre de petits jeux parce qu'il a toujours son petit plaisir de découvrir un nouveau jeu. Mm. » Mais au moins, ça prend pas de place.
Ouais, c'est ça.
Et zip, bah, en vacances, je peux en amener une dizaine, ça prend vraiment pas
c'est
de place.
Ça.
Et déjà, on a quoi s'occuper une bonne soirée avec tous ces jeux.
Mm. Ouais, puis même parce que moi, je pensais du coup à mes parents qui sont pas du tout des joueurs et pourtant, je continue à amener à chaque Noël des jeux. Et ça, c'est le type de jeu, en fait, vu que ça dure pas longtemps, que je pourrais amener en famille,
ça.
Tu vois. Et on est vraiment sur cette époque actuelle du ben, ouais, en même temps, on a une fracture sociale qui fait que du coup, par rapport à nos aînés. Moi, je sais que dans ma famille, quand on joue, c'est qu'on est un peu bébé, tu vois. Et en même temps, on est, nous, je pense, d'une génération qui a compris l'intérêt du jeu. Et du coup, en fait, ce genre de petit jeu peut permettre de passer un moment et de se rencontrer, en fait, en intergénérationnel. Et en même temps, bah, c'est symptomatique d'une époque où on n'a pas de temps, donc je suis un peu partagée sur tout ça. Mais
enfin, nous, pour le coup, on passe des dimanches après-midi à jouer à la... chez mes parents.
C'est cool.
Avec ma grand-mère. Donc, mais c'est vrai qu'on reste sur des jeux où soit on retourne en arrière, donc on va faire du Scrabble, on va faire du Bonne Paye, on va faire des trucs comme ça, parce que c'est ce qu'il y a chez mes parents, parce que c'était mes jeux d'enfant. Soit j'amène des jeux où bah, le 6 qui prend, des choses comme ça. Ouais. Et là, au final, ça passe très bien aussi. Mais j'ai la chance, du coup, effectivement, d'avoir des dimanches après-midi en famille où on joue. On habite en Bretagne aussi.
Okay. Alors que si tu vas chez un couple d'amis et que seuls les deux garçons ou les deux femmes jouent, tu fais, bah attends, on joue 5 minutes et au moins ça bouffe pas toute la soirée.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Est-ce que tu dirais, Fly, que du coup, tu trouves que ce jeu manque d'ambition ou de... C'est compliqué, tu vois?
Alors, moi, je trouve pas. Je trouve qu'il a l'ambition qui se donne. C'est pas le jeu qui manque d'ambition. C'est que, en ce moment, on peut pas se permettre, en fait, d'en avoir. Et en fait, ce jeu, il nous permet justement de pouvoir jouer dans une société où on n'a pas le temps de le faire, en fait. C'est pour ça qu'il est bien. Il est petit, il se déplace facilement. Enfin, je suis désolée, mais
c'est du speed dating du jeu de société, quoi.
Ouais, c'est un petit jeu apéro. Mais en même temps, si tu regardes ce qui se vend en ce moment, le plus... Bah, c'est des jeux pas longs.
Donc le minimalisme pour toi, c'est quelque chose aussi qui répond à l'air du temps, à ce côté...
Alors au-delà de ça, le minimalisme pour moi, il y a un petit côté punk dedans, qui n'est pas... C'est aussi pour ça que je parle de l'anglais au tout début du... Les anglais, c'est les punks, tu vois, c'est nos futurs.
C'est ce que Darky avait l'air de dire.
Il y a un côté genre, bah ouais, on n'a pas de temps, mais on va jouer quand même, et s'il le faut, je jouerai sur ta gueule, parce que ça vient... parce qu'il n'y a pas besoin de plateau. Voilà, là, moi, j'y vois plutôt quelque chose comme
ça. C'est aussi, effectivement, au niveau de KS, le crowdfunding, t'as plein de jeux où, franchement, les boîtes, elles font... Enfin, Gloomhaven, c'est 9 kilos, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc, t'as ça et Gloomhaven. Donc, je pense que c'est un contre-pied.
On est dans l'extrême inverse.
Ouais, c'est ça.
Tu
c'est
vois
ça.
Et en fait, moi, tout ce que je dis, c'est que là, en fait, c'est comme tu disais, on peut jouer dans le métro, etc. Projetons-nous aussi sur les citadins. En fait, des fois, tu peux pas accueillir chez toi parce qu'en fait, ton appart, il fait 9 mètres carrés dans les meilleurs des cas. Et en fait, on est tous à une heure de route, donc on va se retrouver dans un petit bar. Et en fait, tu peux pas te déplacer avec ta boîte de Gloomhaven qui pèse je sais plus combien de kilos. Donc, tu vas te déplacer avec ça et tu vas pouvoir jouer en fait au bar, en fait.
Ouais, ou dans le TER.
Je vais même rajouter une contrainte supplémentaire.
Une contrainte.
Ouais.
Non, mais on va y revenir parce que là, on boucle avec le sujet d'origine.
Ouais. Basiquement, quand tu invites des personnes où tu sais que les personnes ne sont pas très jeux de société, que toi, t'as juste envie de passer une soirée jeu et que tu présentes un jeu qui va durer 45 minutes,
ouais, c'est ça.
Que la personne en face, au bout de 10 minutes, tu vois que la personne elle tire une gueule de 6 pieds de long, t'es là, tu dis, dans quoi je l'ai embarqué ? Elle ose pas dire que ça l'emmerde, mais ça se voit sur son visage qu'un petit jeu comme ça qui dure 15 minutes, hein, si à la première partie ça passe pas, ben, tu t'en fous, tu passes sur autre chose. Et ça, je pense que ce jeu... Moi, en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris des mini-jeux comme ça. C'est pour les personnes qui viennent chez nous qui sont pas très jeux de société, mais on voit qu'il y a comme une petite appétence pour ça. Ben, c'est le genre de jeu où, tiens, v'là une carotte. Est-ce que tu meurs, est-ce que tu meurs pas? Non, bon, bah, tant pis, on passe sur autre chose, mais...
On va en appeler troll, alors. C'est parti.
C'est...
Et puis, il y en a plein de différents, quoi. Je veux dire, il y en a plein de thèmes. Il y a plein de thèmes, donc c'est vrai que bon bah il aime pas l'effet Cluedo, et ben on va l'amener sur un effet SimCity où on va construire une petite ville.
Basiquement, Megalopolis, je l'ai pris pour le côté coop parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage.
Et on joue ensemble.
Qui sont comme moi où le côté compétitif c'est un truc ça les. Oh, c'est du compétitif, ça fait chier, j'ai déjà ça au boulot, ça m'emmerde. Mais
je pense que tu vois, j'aurais testé un jeu compétitif ce soir, ça m'aurait peut-être plus botté, tu vois. Que le jeu
coopératif.
Ouais.
Coopératif.
Ouais. Pardon, je sais pas ce que j'ai dit. Compétitif.
Compétitif.
Ah pardon, j'aurais testé un truc coop. Ouais, désolé, j'ai la ma journée derrière. J'aurais testé le jeu coop ce soir. Je pense que ça m'aurait plus botté.
C'est l'inverse du jeu de rôle complètement en fait, ces jeux-là. C'est le jeu de rôle, c'est le jeu qui te demande énormément d'investissement, beaucoup d'implication, un temps de rendez-vous.
Non, je suis pas d'accord avec toi. Il y a plein de jeux de rôle différents et il y a aussi des petits jeux, hein. Des jeux en temps court dans le jeu de rôle. Hein. Il y a un peu de tout en fait. Et bah là, c'est pareil dans le jeu de société, il y a un peu de tout. Et en fait, celui-là, il y a, comme tu disais, il y a qu'un pas. Et d'ailleurs, il a a priori déjà été franchi pour le transformer en jeu de rôle. Donc non, je pense qu'il y a autre chose.
En fait, c'est l'équivalent en jeu de rôle des jeux de Johann Scipion ou de Thomas Munier, les plus minimalistes, qui se jouent en quelques quarts d'heure seulement, comme Marin de Bretagne par exemple, qui était venu nous présenter Thomas. Je pense que c'est l'équivalent en fait de ce genre de jeu. Ou des Pico Games dont on parlait tout à l'heure. C'est ça, le jeu de société, c'est leur Pico Games à eux. Et voilà. Mais c'était dans le discours que tu disais de tout à l'heure, Flavie, de le temps, ça manque et tout. Parce que malgré tout, les Pico Games, il y a quand même un peu de temps. Quoique non, parce que Lou et Morgan et tous ces trucs-là, ça prend pas plus de 5 minutes. Je pense même que c'est la partie un peu plus courte que Revolver Noir. C'est intrigant.
Revolver Noir, je l'intègre quand vous voulez dans une partie de jeu de rôle. Hein.
En mécanique
Mais complètement. Pour moi, c'était vers ça que je voulais aller au début quand je parlais de contraintes créatives. Je réfléchissais à des manières différentes de lancer des dés pour résoudre des actions. Moi, j'imaginais une sorte de hack de ce jeu-là pour justement faire le placement des personnages, etc., dans un jeu de rôle à partir de cartes, et potentiellement que pour les phases de combat, on va dire ça comme ça, ça se résout avec un système à la Revolver Noir. Tu prends un jeu de rôle qui se passe avec...
Tu fais un jeu de rôle Squid Games, quoi.
Pas forcément Squid Games, mais même un truc un peu en mode de toute façon, Revolver Noir, hein, c'est tout ce qui est...
Ça peut être du Cthulhu. Hein,
c'est là, ça, enfin... voilà. Et puis, t'as une crypte avec les cartes qui vont bien pour la crypte et compagnie. Et puis,
le maître joue le monstre,
c'est
l'autre joue l'investigateur.
Et puis, faut essayer de se barrer sans se faire prendre, etc.
Il y avait un jeu de rôle qui faisait ça. C'était les 1000 marches de LG, hein, le Grumpf, dans lequel, en fait, chaque situation, donc course-poursuite, baston, etc., était émulée par des sous-systèmes et des mini-jeux, en fait, finalement. Je crois que c'était les 1000 marches. Hein,
ou du coup, tu peux rajouter des petits événements. Oui, si vous êtes à côté de l'hôtel, vous entendez grouiller ceci, cela... etc. Du moins, vous entendez grouiller, etc. Si vous êtes à côté de l'hôtel, vous sentez un truc qui vous happe et qui vous dévore, s'il y a quelqu'un qui était au niveau de l'hôtel à ce moment-là, dégage.
Ce qui est marrant, c'est que toi, tu utiliserais en fait les micro-games comme système de résolution à certaines scènes pour certains
Que je trouve super intéressant pour résoudre. Parce que je me posais souvent la question, comment réussir à faire du placement de personnage sans avoir besoin d'une grille, en fait. Peu importe le type de grille, d'ailleurs, mais c'est une question que je me suis beaucoup posée, c'est comment formaliser dans le jeu de rôle le fait de dire, je suis derrière un arbre, je suis protégé, il y a un mec devant moi qui a une arbalète. Normalement, avec le bon sens paysan, ça fonctionne bien, mais ça fonctionne au bon sens paysan où si j'indique que l'orque qui a son arbalète te tire dessus, on part du principe que si tu te prends le carreau, c'est forcément dans la partie supérieure. Mais tu prends un Donjons et Dragons 3.5...
Tu lances un dé, puis tu vois dans la table ce qui est annoncé.
C'est pour ça que je parlais de 3.5, ou je sais plus si c'est dans Advanced ou dans 3.5, je sais plus c'est dans laquelle, je crois que c'est dans Advanced, ou même si t'es protégé, tu lances le dé, et effectivement, tu peux te le prendre dans le pied, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens.
Le vent était très fort.
Ouais.
Et
je me posais la question, comment sans matériel, être capable de formaliser, en fait, que tu es derrière un truc comme ça.
Avec un minimum de matériel.
Et ça résout absolument pas mon problème, mais ça permet de donner une pièce à la machine pour se dire... Il y a quelqu'un qui a réussi avec juste 8 cartes, hein, vu qu'il y en a une qui permet d'avoir un petit rappel des règles, 8 cartes par personne, d'être capable de te dire, là t'es à tel endroit, tu peux voir ceci, tu peux voir cela. Ça résout pas le problème, mais ça permet de se dire, peut-être qu'en regardant par cette mécanique-là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose.
Enfin, moi, l'argument aussi du jeu court et tout ça, au-delà de comment on pourrait l'utiliser dans des mécaniques plus longues, parce qu'en fait, c'est ça. Là, c'est l'idée d'utiliser des boucles de gameplay courtes, comme celles proposées par Matago ici, et de les intégrer à des expériences plus longues de jeux de rôle et compagnie. Mais au-delà de ça, moi, ce que je voulais dire par le fait que ce soit court et que c'est le fait de pouvoir jouer plusieurs fois, etc., ça fait qu'on apprécie, on touche la profondeur de ces jeux-là. Alors que certains jeux extrêmement gros et complexes, etc., ben, en fait, on en fait une partie, elle est impressionnante, on sent la profondeur. Très souvent, moi, je vois à la cellule, parfois, on peut-être des trucs, on se dit, oh, ça doit être un Fitna. Fitna, on a fini le podcast la dernière fois en se disant, oh, ça doit être incroyable, ça vaudrait le coup d'en faire une. Est-ce qu'un jour on en fera une? Ben non, alors que là, on a concrètement l'occasion d'en faire une.
Et ce que j'aime bien aussi, c'est que, en fait, alors il y a des modes solo. Où le temps donné est de 30 minutes et c'est pour plus de 8 ans. Et c'est une très bonne alternative quand il y a des voyages un peu longs aux enfants pour leur enlever des écrans ou éviter le livre s'ils sont un peu malades. Je vois vraiment la chose où on est dans l'avion, on prend l'avion, on a une heure d'avion, on a un enfant et en même temps on n'a pas envie de le mettre une heure devant un écran. Et ben du coup il peut se faire son petit jeu tout seul, son petit univers, son petit truc. Et ça, et je trouve ça vraiment cool. Oui, ah bah, complètement. Mais je trouve que c'est intéressant le fait qu'il y en ait adapté à 8 ans et plus. Et du coup, d'avoir une alternative intéressante à leur donner.
Une alternative aux écrans intéressante, effectivement. Ouais.
Et surtout que ça reprend régulièrement des thèmes assez connus. Là, c'est des trucs très... Donc, Megalopolis, Agropolis, bon, c'est du SimCity, hein, basiquement. Room 25, c'est basiquement c'est du futuriste un peu à la cube. Revolver Noir, c'est très ambiance détective. Là, Fly, elle vient de prendre Convoyeur très spécial. Donc, ceux qui connaissent FT... Spatial.
Très spatial.
Oui, très spatial. je savais qu'il y avait
le
mot.
Très bon, d'ailleurs.
C'est fin de journée, je suis fatigué. Ouais. Qui est très ambiance science-fiction, space opéra, où il va falloir faire du marchandage, etc., avec des races extraterrestres. EP son vaisseau pour aller défoncer un gros vaisseau, un gros boss à la fin. Il va y avoir des jeux très historiques, plutôt historiques, où ambiance plus passe-partout. Il va y avoir des jeux un peu plus détentes, comme Marée, par exemple, où le but, ça va être de récupérer des déchets sur une plage, etc. Bref, c'est toutes les thématiques sont abordées. Et ça, c'est vraiment très sympa. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges.
Ouais, c'est ok.
Sur la gamme.
Mais n'empêche que Flavie m'a mis le seum quand même en disant ouais, mais en même temps, c'est des jeux qui reprennent bien leur époque ou c'est du fast. Tu vois, ça m'a mis un coup. Tu vois, j'étais enthousiasmé par le jeu et tout. J'étais en train de me dire putain, c'est incroyable de faire aussi profond avec aussi peu. Et d'un coup, elle m'a cassé.
Les jeux
mon...
ne parlent pas des problèmes de l'actualité. Oui, c'est effectivement, ça fait partie. C'est des jeux qui disent quelque chose de notre époque.
Ouais. J'avais pas réalisé, tu vois, avant que Flavie en parle, à quel point effectivement, tu vois, en même temps, je suis très admiratif.
C'est trop cool. Moi, je suis prête à détruire tes rêves quand tu veux.
Alors, j'ai envie de dire, j'ai donné un argument qui va peut-être nuancer tout ça. Les packaging, et c'est un des défauts de Microgame, c'est que les non-initiés au jeu, ils vont pas aller vers ces jeux-là. Ça va parler aux joueurs. Parce qu'ils connaissent déjà les jeux, ils savent bien que des fois, il faut pas toujours regarder le flacon pour savoir si le jeu vaut quelque chose. Il faut un peu tester, et il suffit d'avoir... par exemple, Room 25, c'est une reprise d'un gros jeu de société, ils ont fait un petit jeu de cartes.
Ouais.
Mais il suffit même que quelqu'un présente Agropolis une fois... Tu fais ok, on peut faire ça avec 18 cartes, et puis tu vas un peu regarder un peu ensuite ce genre de collection en disant ah tiens, ok, il y a un truc sur ambiance film noir, Revolver Noir, très bien, j'ai envie de l'essayer, ça se joue à deux, c'est indiqué, ça dure 15 minutes. Les joueurs vont s'intéresser un peu plus à ce genre de jeu.
Alors justement, j'avais cette question là à te poser, c'est pourquoi toi qui as une ludothèque, tu me disais que ces jeux ne fonctionnaient pas dans la ludothèque?
Bah parce que déjà, je te dis qu'on j'ai un petit coin pour les petits jeux, enfin j'ai deux coins pour les petits jeux. Quand c'est des nouveautés, je le mets dans un coin qui est devant. Donc franchement, quand ils entrent à la Ludo, ils tombent à l'accueil. Et derrière l'accueil, on va dire, dès qu'ils passent le couloir, c'est les premiers jeux qu'ils voient. Ils voient des petits jeux dans une petite boîte. Ouais. Il y a 2-3 jeux. J'ai mis ces jeux-là. Ça ne sort pas.
Okay.
Ensuite, une fois qu'il y a d'autres nouveautés qui passent, je les range dans mon coin à petits jeux. Donc j'ai vraiment un endroit à petits jeux. Alors il y a des gens qui passent et qui prennent des jeux. Mais là, du coup, ils sont rangés sur la tranche.
Ah oui, et du coup, il y a comme il n'y a rien.
Donc déjà, tout de suite, ça, tu vois deux jeux comme ça. Là, tu as déjà une ambiance. Oui, là, tu ne sais pas ce que tu vois.
Parce déjà, que la tranche n'est pas signifiante.
Il faut créer encore une autre curiosité. Mais même si tu regardes le dos, tu fais super, ça ne dit rien, quoi que ce soit. Il manquerait peut-être
un petit quelque chose
sur le dos
là,
de,
du pour,
coup.
Pour info.
Les tourner comme ça.
Ben, c'est un peu, pourtant, c'est un peu le système que j'essaye de faire. Mais là, pour le coup, c'est vraiment petit.
Ouais, c'est vrai.
Et pourtant, ils sont bons. Mais il faut juste que j'ose les sortir. En fait, pour
quand les mettre en table,
quand tu les présentes comme ça, là, comme j'ai fait tout à l'heure en éventail et que tu les présentes tous comme ça, il y a un côté pléthorique, tu as envie d'en tester.
Alors j'en ai pas
un
assez.
Côté bonbon, si tu veux.
Peut-être qu'il faut en acheter plus.
Johan, tu oublies de préciser une chose, je sais pas dans quelle boutique tu les as achetés, les tiens, mais dans celle que, où je vais, qui est mon dealer de jeux de société. C'est en plus ça un gars qui est adorable et qui connaît très très bien son métier, qui est dans une grosse librairie quimpéroise. De toute façon, vous tapez librairie quimpéroise, grosse librairie quimpéroise, vous n'en avez qu'une. C'est comment
je crois
Matago leur a fourni... je peux dire le nom?
Vas-y, mais non,
Ravi,
mais...
La librairie Ravi, hein,
ouais, ouais, d'accord, très, très bien.
À Quimper.
Tu peux dire le nom, il n'y a aucun problème.
Et comment... Donc Matago fournit en fait un présentoir qui tourne un peu comme un petit voilà. manège à bijoux.
C'est ça.
Et
présentoir de sucette.
Exactement. Et tu as toutes,
côté bonbonnière en
toutes
fait.
Toutes les petites jaquettes de cartes qui sont présentées. Donc tu les vois en fait.
Ouais, c'est ça.
Tu les vois, tu les tournes et tu as vraiment tous les jeux qui sont présentés. Tu n'as plus qu'à prendre à piquer dedans.
Il ouais, faudrait presque un portant à carte postale.
Exactement.
Quoi, un truc,
et il n'y a que de cette manière-là que tu peux les voir parce qu'ils en ont mis aussi en mode tranche, mais c'est pareil, tu les vois pas vraiment. Les derniers jeux qui sont sortis, le jeu du mois, vu que c'est un par mois, c'est un rythme assez freiné. Oui. J'y suis pas allé d'ailleurs pour le mois d'octobre.
Pareil, tu vois, c'est un rythme effréné. On revient sur ce que tu disais tout à l'heure, Flavie, sur la vitesse.
Et puis c'est toujours pareil.
Un jeu remplace un autre, mais la cellule c'est pareil. Quand tu essayes un jeu tous les deux semaines, un jeu remplace un autre.
Mais...
C'est pas pareil. Parce qu'on prend le temps d'en parler, tu vois, on passe plus de 15 minutes sur Revolver Noir.
Bien sûr, là, je te taquine.
Là, le sous-entendu aussi, c'est qu'il y a une mécanique et on peut toujours transformer cette mécanique sur un nouveau... On change la carte postale. C'est pas bien ou mal, c'est juste on change la carte postale, en fait. C'est un fait. Et on l'a fait, je veux dire, c'est le cas dans beaucoup de jeux, c'est le cas dans beaucoup de choses. Comme là, en plus, c'est un tout petit jeu... La carte, il y a moins de temps pour se familiariser et s'approprier les mécaniques. Et donc, du coup, on peut imaginer de nouvelles cartes postales plus facilement. Je suis sûre qu'après avoir joué ce soir, autour de la table, vous avez tous des idées de cartes postales pour l'améliorer. En fait, pour vous l'approprier.
Bah, basiquement, hein, tu le fais placer dans une forêt avec l'étang, avec la grotte de l'ermite, etc. Tu remplaces les deux joueurs par deux magiciens qui de temps en temps vont vers des stèles qui activent des runs
et go
quoi. Et la carte postale est changée.
Oui, mais alors là où je trouve que Flavie est sévère, c'est que le principe de la carte postale, donc qui nous avait été présenté par Stéphane Bagnier. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le syndrome de la carte postale, allez voir le podcast, allez écouter le podcast donc sur le problème de la carte postale de la cellule. C'est que en gros, ce que Stéphane dit, c'est que le système de jeu et les mécaniques ne changent pas et que tout ce qui change, c'est le décor autour, mais qu'au final, ça reste toujours. Alors que là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un véritable effort dans chaque jeu pour changer radicalement la mécanique, le système, le lore. C'est juste la contrainte que ce soit sur dans un porte-carte, etc. Mais voilà. Après, pour Revolver Noir, je suis d'accord qu'on peut changer la carte postale et effectivement faire un duel de sorciers dans un donjon.
Même si ça prend quand même tout son sens là, dans le côté, c'est vraiment très film de détective. Etc. Tu entends la voix du gars dans la tête. Ah oui, là, je pensais qu'il était dans la cuisine, etc. on le voit encore avec son Fedora et compagnie.
Effectivement.
Moi, je sais que là, je viens de regarder le petit jeu, l'île des prédateurs, et c'est vrai que c'est un système de jeu complètement différent, par exemple. Déjà, c'est un jeu pour un. Donc, c'est pas la même chose. Hein, donc, voilà. Mais oui, on n'est pas sur. Mais là, quand même, pour sortir un jeu tous les mois, Il y a quand même une façon de penser ces types de jeux qui doit quand même amener certaines créations assez régulières aussi, parce qu'il y a l'obligation pour qu'ils tiennent de sortir régulièrement des jeux, sinon tu fais faillite, quoi.
Et ils ne font pas travailler les mêmes personnes à chaque fois.
Non,
en fait,
bah parce que j'ai vraiment
c'est
l'impression.
C'est des concours à chaque fois ou comment ça se passe pour ressortir
bah là, tu vois, on voit les auteurs,
détails,
c'est pas les mêmes.
Ouais, c'est ça,
mais
c'est ce que je regardais.
De ce que je vois, Button Shy a l'air de faire énormément de concours pour mettre en avant des jeunes auteurs
ouais,
et être capable
top.
De les propulser. C'est de ce que je voyais. En tout cas, je ne sais pas c'est de quelle année que j'ai vu cette information-là. Je suis désolé, c'est assez flou sur certains points. C'était $100 le prix avec potentiellement une édition derrière. Donc, on sait avec Revolver Noir et les quelques autres que, effectivement, c'est le cas. Mm. Mais effectivement, ça a l'air d'être vraiment un vivier à hauteur pour lesquels ils disent ben voilà, hein, on vous édite, il n'y a pas de problème si vous avez un concept qui nous intéresse.
Mais bon, dans tous les cas, moi, ce n'est pas un jugement de valeur en fait que je porte. Hein. Non, mais pour être très clair.
Non, mais moi, oui. Moi, oui, en fait. Ça me fait porter. En fait, si tu veux, moi oui, il y a un jugement de valeur. C'est-à-dire, quelque part, j'ai la sensation en même temps. Que c'est le genre de jeu que je serais prompt à aller combattre quelque part, enfin, ou en tout cas dire ouais, en fait, c'est des jeux qui ne font que nous divertir et qui, même au-delà du côté punk éditorial et tout ça, qui est très intéressant, tu vois, je veux dire, mais c'est vrai est-ce que c'est vers ce jeu de société-là que j'ai envie qu'on aille, tu vois, ou... Après, c'est, de fait, c'est, si ça plaît, c'est bien. Enfin,
Dans tous les cas, moi, ce que j'ai dit, c'est je suis partagée sur ce jeu, j'aime bien la façon de penser, le ni Dieu ni maître me parle, évidemment, mais voilà, je me pose des questions, mais je trouve ça très plaisant, j'ai passé un très chouette moment. Mais heureusement que je connais pas que ça comme jeu, quoi.
T'as pas bouleversé, quoi.
Non. Ah, mais ça, je suis parfaitement d'accord. Par contre, moi, il y a quand même un point que j'adore sur ces micro-games. C'est ce côté, tu sens que c'est pas des gros créateurs de jeux qui les ont faits. C'est des gars qui ont eu des idées, qui se sont dit, bah voilà, je vais pouvoir éditer mon jeu, ça c'est cool. Et du coup, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec les jeux vidéo indépendants, mais les vrais jeux vidéo indépendants, pas les jeux vidéo indépendants dont on parle actuellement, où quand tu regardes derrière, c'est des grosses boîtes de prod qu'il y a derrière et qui font juste bon bah ok, on vous loue les studios, on vous donne un peu de financement ego, on vous donne la partie commerce, on vous donne la partie marketing, etc. Ego, c'est plus de l'indépendant à ce niveau-là, c'est vraiment des personnes que tu peux voir sur Itch.io, etc. faire des jeux. Et là, ben, ils ont l'occasion d'être édités. Donc, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de les comparer à des gros cadors du genre. Mais ils font avec les moyens qu'ils ont, en fait. C'est vraiment...
Oui, bien sûr.
Faut pas essayer de les comparer à des jeux avec des grosses profondeurs de gameplay.
En fait, ce qui est incroyable, c'est avec la modestie des moyens,
c'est
ça. La richesse
qu'on
obtient.
Déjà, il n'y a pas les moyens possibles. Je parlais que la majorité des jeux se faisaient... uniquement avec les cartes, je disais bien la majorité parce qu'il y a des jeux qui nécessitent des éléments externes. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, bah, sur la fameuse bataille des pâtis sorciers, où il faut des petits jetons en plus qui ne sont pas fournis. Mmh. Et là, bon, tu dis le jeu n'est pas complet, mais bon, c'est pas trop grave, ça se trouve assez vite. Hein, ils disent à peu près quoi tu peux faire ça, hein, tu déchires des bouts de papier, ça fonctionne. Mais c'est vraiment, voilà, on leur a imposé des contraintes, ils ont dû faire un jeu avec. Donc effectivement, ça ne va pas révolutionner le genre. Je pense qu'en plus de ça, il a dû avoir des contraintes de temps, il a dû avoir des contraintes d'argent, parce que ben, mine de rien, sur une carte, tu sens que tu ne peux pas tout mettre non plus. Et forcément, ça va limiter de par le format la profondeur du jeu. Tu prends, Convoyeur très spatial. Quand tu regardes le jeu, tu sens que le gars qui a fait ce jeu, ou les gars, je sais pas, c'est...
Il y en a qu'un,
effectivement, ouais, Lucas Gentry. Tu sens par les mécaniques qui sont dedans que s'il avait pu, il aurait multiplié par 2 ou 3 le contenu du jeu, mais fallait que ça tienne dans une petite pochette, en fait. Donc, ça aurait pu être un jeu qui aurait pu prendre beaucoup d'ampleur, mais voilà, il y a eu la contrainte qui a fait que...
Il existe
c'est un préliminaire
dans...
C'est possible. Je ne sais pas pour Convoyeur très spatial,
ouais,
je ne suis pas sûr, je n'ai pas
très
vu.
Spatial.
Non, mais au sens aussi où c'est un préliminaire pour... si t'aimes bien jouer à ça, ben, si on aime bien jouer à ça ensemble, on va pouvoir jouer à d'autres trucs différents après. Mmh. C'est aussi une rencontre.
Oui, c'est ça.
Ouais, je pense qu'il y a une vraie volonté des auteurs à faire vraiment quelque chose de créatif avec les contraintes. Mais il y a l'éditeur aussi qui profite d'une manière de faire. C'est-à-dire que du coup, il va toujours utiliser les mêmes emballages. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Soit elle a le côté commercial facile de dire « j'ai déjà mon truc », mais en même temps, c'est peut-être aussi beaucoup plus écologique de dire « il a toujours une seule manière de faire et du coup, j'achète en gros et pas que 1000 exemplaires d'un truc et puis 1000 exemplaires d'un autre truc pour un autre jeu ». Donc il y a le côté très commercial qui existe. Ça me fait penser à Cocktail Game qui avait commencé comme ça avec des boîtes qui étaient vraiment métalliques, carrées. Qu'il avait repris des boîtes de thé, je crois. C'était ça l'origine de ces boîtes-là.
Ouais.
Et tous ces jeux, il en a fait une trentaine, cinquantaine, je ne sais pas. Anabi était dans cette collection-là, notamment.
Ouais, ouais. C'était des boîtes en fer, en métal.
Et voilà, la contrainte devait tenir dans cette boîte-là, quoi.
S'ils imposent 18 cartes pour leur tournoi, c'est pour pouvoir les mettre à disposition sur le net. J'ai pas regardé, en tout cas c'est dans les recherches que j'ai faites.
18 parce que c'est 2 x 9
2 x 9,
2 x 9 tient sur 2 à 4.
Oui, c'est vrai que je dis ça d'un air évident, mais effectivement,
non, mais il n'y
a jamais
découpé
de carte sur une feuille à 4.
Oui,
je ne sais pas pourquoi 9, c'est un chiffre merveilleux.
Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait ça tient. Il faut savoir que 9 cartes au format américain tiennent sur 1 à 4. Donc en gros, quand
imprimé,
on fait.
C'est...
Voilà, donc si tu fais 18 cartes, ça fait 2 pages à 4 seulement et tu découpes tout. Ouais. Tu fais 3, c'est 3 par 3.
Il n'y a pas moyen d'en caler une autre. C'est
non,
impossible
non,
sans faire du mode puzzle. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que les règles sont quand même disponibles à l'impression. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt propre. On sent vraiment qu'ils veulent vraiment mettre en avant les auteurs amateurs. Et là où je voulais en venir aussi, je ne sais plus, je me suis perdu dans ma pensée.
Et juste, j'avais une question que Flavie ne nous a pas posée, que je vois dans ses notes, c'est est-ce qu'on peut tricher à ce jeu? Et moi, j'ai l'impression que oui.
Complètement.
Il faut quand même... Enfin, tu vois, pour ton prend rêve...
Oh, tu me l'as pris, je la gardais pour la fin.
Ah bon, vraiment? Je pensais que tu l'avais...
Non, je la gardais pour la fin. Peut-on tricher? Peut-on tricher à ce jeu? Parce que je vais te le révéler, Romaric. Oui, j'ai triché.
N'importe quoi.
Si, si, j'ai triché. Je t'ai tiré dessus. Alors, il est où le plan?
Saleté.
Je t'ai tiré dessus, ouais, je sais. Et parce que je me suppose.
Tu triches tout ça pour tirer un coup, hein?
C'est toujours pour tirer un coup, mon chéri. Non, mais parce que c'est quand tu m'as expliqué les règles, c'est la première question que je t'ai posée. Et donc, j'ai voulu tester à la deuxième partie que j'ai faite.
Ah oui, donc du coup, t'as testé de tricher pour voir si... Ouais, ok.
Ouais, et donc j'étais dans le foyer, je t'ai tiré dessus sur le balcon. T'étais pas dans le balcon, j'étais un peu déçue. Je voulais
du coup, t'avais le droit.
Non, du foyer, tu peux pas tirer vers le haut.
Ah bah moi, alors là, du coup, pour le coup, je pensais pas que t'avais triché parce que j'étais persuadée que tu pouvais.
Voilà. Mais du coup, voilà, j'ai testé, c'est faisable.
Oui, mais alors c'est une petite triche parce que t'étais quand même dans une truc adjacente. Ok, j'ai mal regardé. C'est pas que t'as triché, c'est que...
Ah si,
c'est
que de la triche.
J'ai manqué de vigilance.
Faut dire ce que c'est.
Alors, si elle
l'a
fait
exprès, donc oui, c'est de la triche. Je voulais vraiment vérifier, en fait, vu que je t'avais posé la question. Quand tu m'avais expliqué les règles, j'étais là, mais qu'est-ce que l'autre,
non,
il va pas,
attends,
il va pas ta carte.
Je suis pas d'accord. Un joueur expert de ce jeu t'aurait empêché de faire ça. Donc c'est pas tricher que de profiter d'une méconnaissance de ton adversaire sur d'un manque d'information de ton adversaire pour c'est encore différent. Enfin oui, si c'est tricher parce que tu fais...
Oui, et puis en fait, sinon en fait, il y a un moment où je me suis posé la question de savoir si toi tu trichais pas. Parce que je me suis dit ah là, ça se trouve en fait, il est vraiment dans la cuisine. Et en fait, ça se trouve je n'ai aucun moyen de savoir qu'il triche ou pas.
Mais quel intérêt de tricher à un jeu comme ça? Franchement.
Gianni, c'est le seul intérêt, c'est de garder ces 2 points. Alors, il faut bien... c'est le seul intérêt pour l'instant. Bah, tu triches. Tu te peux. T'as le droit.
Et si tu mises qui fait la vaisselle ce soir, ça peut être intéressant quand même.
Jamais on te tire dessus.
Ouais, non, enfin, ok. Mais là, il n'y avait pas de mise, tu vois. On était vraiment là pour playtester des jeux. Si on commence à tricher pendant qu'on playtest des jeux, maintenant à la cellule, ça va être compliqué.
Non, mais c'est important parce que ça veut dire que ce jeu repose par contre sur quelque chose de cool.
La confiance.
Exactement.
Il le dit,
il part
dans
du
les
principe
règles.
Que les joueurs vont se faire confiance. Et je pense que c'est... On n'en a pas parlé, mais c'est le contrat social du jeu. C'est qu'on va se faire confiance, en fait. Et ça, pareil, c'est cool. Ouais, c'est de se dire, ok, on va jouer ensemble et on va être honnête. parce qu'on est amis et qu'on est là pour jouer. Et ça, c'est chouette.
Dans les règles, écoutez, coûte un point d'action, votre adversaire doit révéler l'une des pièces de la section déplacement de son emplacement actuel. Votre adversaire doit dire la vérité.
C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, on peut tricher ne serait-ce que là, en fait. C'est de fait.
Mais ils doivent quand même le marquer qu'il faut dire la vérité, quoi.
Mais c'est pour préciser, là, le mec, quand même, c'est, je pense que c'est pour le mec qui met ça, mais c'est quand même intéressant
ouais.
qu'il mette une
ouais, qu'il le mette, ouais.
Mais il n'est pas obligé de vous communiquer d'autres informations que celle-ci.
Ouais, c'est très intéressant, effectivement. J'avais pas vu ça, le fait qu'on doive se faire confiance, et effectivement, c'est pas ce qui est en jeu, en fait. L'enjeu, il n'est pas dans le mensonge. Mais alors, du coup, c'est un drôle de jeu de guessing, quoi. Parce qu'en général, dans les jeux de guessing... Enfin bon, ouais, ok. Ça, c'est intriguant aussi.
C'est pour deux personnes qu'on s'entend.
Ouais, mais mine de rien, c'est important, ça. Parce qu'il y a tellement de jeux qui perdent leur temps. Et notamment, moi, je le vois beaucoup dans les systèmes de jeux de rôle. Qui perdent leur temps à imaginer que les joueurs vont être malhonnêtes. Dans le jeu de rôle, c'est épatant le nombre de jeux dans lesquels on suppose par défaut que les gens seront malhonnêtes et donc qu'il faut des moyens de contrôler, que le contrôle s'effectue bien selon les contrôles du mec qui contrôle au-dessus. Tu comprends ? Parce que sinon, on sait jamais. Les joueurs, ils peuvent tricher, tu vois. Et donc, il y a un côté... alors que là, vraiment, le jeu part du principe que, bah non, les gens sont bienveillants et effectivement, les joueurs sont bienveillants. Parce que les personnages qu'on joue, par contre, sont des vraies ordures. Mais ça, c'est... voilà. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Johan, de nous avoir amené ce jeu. C'était intéressant. Merci beaucoup à Flavie pour toutes ses réflexions critiques sur Revel Noir Vert Noir. Ça a beaucoup fait cogiter.
J'ai l'impression d'avoir été horrible avec ce jeu, mais en vrai, c'était pas mal, hein.
Non, mais c'est intéressant. Enfin voilà, j'ai trouvé tes remarques très très intéressantes. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup Géraldine d'avoir participé à cette expérience. Toi, c'est ta cam ce genre de jeu, ouais. Géraldine, parce que ouais, tout le monde autour de la table, vous êtes Johan et Jérémy, j'en parle même pas, vous êtes convaincus.
Alors non, moi je suis mitigé.
T'es mitigé.
Ouais, j'aime bien ce genre de jeu. Mais c'est pas non plus le premier jeu que je vais mettre les pieds.
Est-ce que t'aimes bien ce genre de jeu parce que c'est des olnis, des objets ludiques non identifiés ?
Ouais, je pense que oui.
Voilà. C'est là où tu dis que c'est un jeu d'experts, en fait. C'est pour des gens qui savent reconnaître et admettre la dimension étrange de ce genre de jeu. C'est ça qui est intéressant. Alors que Géraldine, pour toi ?
Bah, moi, je pense que vraiment, c'est un... Moi, je vais dans les ludothèques ou les choses comme ça pour connaître des jeux comme ça et pouvoir les faire découvrir à mes enfants derrière. Et je pense que clairement, ouais, je vais aller en chercher un pour
les kids,
pour ma grande... Ouais.
Mais oui.
Ouais. Pour l'occuper. Elle qui, en plus, aime bien les jeux un peu logiques où il faut, voilà, faut
je
poser...
Je pense que nous, on a des gosses qui vont trouver ça cool aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc...
Ouais, c'est très intéressant aussi d'avoir...
Donc
d'avoir...
je suis très contente d'avoir découvert...
Mais pour autant, tu vois, est-ce que tu aurais découvert ça? Toujours pareil.
Toute seule, par contre, non. Voilà, c'est clair,
c'est
que non. Ouais, ouais.
Ouais.
Parce que je vais beaucoup sur les petits jeux, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à me projeter dans les petits jeux. Et c'est pour ça que je les prends beaucoup à la ludothèque avant d'aller en acheter un vraiment. Parce que bah, même si c'est pas très cher, ça fait toujours 10-15 euros à chaque fois. Et au final, il y a des jeux, des fois, où bah oui, on joue 10 minutes, on y joue une ou deux fois.
En fait, c'est un mystique déguisé.
Ouais, c'est ça, voilà. Et du coup, on est un peu déçus. Et c'est là où la ludothèque, c'est génial.
Ouais.
C'est que du coup, quand on a des gens passionnés, et ben, on arrive à trouver des jeux super sympas qu'on peut tester du coup, et si c'est cool, après on peut l'acheter, mais au moins on peut l'avoir accessible et goûter à des choses comme ça, quoi.
J'ai vu récemment que Matago, là, il y a des news sur Matago, c'est de la semaine qui date de la semaine dernière, enfin quand on enregistre le podcast, qui disait que justement Matago arrêtait les jeux experts. Est-ce que ces jeux-là, ça fait partie de ces jeux experts?
Non, je pense pas
non plus.
Quand ils parlent les jeux experts, en fait, c'est vraiment des gros jeux qui vont durer longtemps.
D'accord, ok.
Les jeux compliqués. Là, ça prend 5 minutes à expliquer. La partie dure 5-10 minutes. Pour moi, on n'est pas du tout dans le même expert. Non.
C'est très bien fait pour des ados aussi.
Que c'est
expert. Justement.
C'est...
Parce que les ados, souvent, justement, ça veut pas passer des heures à devoir écouter des règles, des machins et tout. Là, en 5 minutes, ils ont tout compris. Ils peuvent jouer. C'est facile.
De cours, ça joue.
Ouais, c'est ça. Ouais. En perme, hop, ils l'ont dans leur sac, ils peuvent faire une partie. Donc, c'est effectivement un jeu en plus qui peut être très cool à emmener au collège.
Et je viens de vérifier. Donc, du coup, effectivement, j'ai réussi à télécharger là, le mode 3-4 joueurs. Et donc, oui, il y a bien une version 3-4 joueurs qui est fournie par Buttonfly et avec différents modes de jeu, en fait. Il n'y a pas que le mode de jeu principal. Il y a. Donc sans extension, il y a déjà 3 modes de jeu, et avec les extensions, ça rajoute encore 3 autres. qui viennent rajouter des pièces à la machine pour du coup augmenter un peu la rejouabilité quand on est à plus de 2.
Moi, de mon côté, c'est, vous le savez, hein, c'est complètement ma cam de punk. Hein, parce que bah, quand on prend par exemple des jeux comme Les Cocottes dont vous êtes le héros ou même Donjons et Dominos, c'est des jeux de punk comme ça en fait.
C'est hein, vrai que tu pourrais part. Sortir un jeu comme ça.
Je pourrais sortir un jeu comme ça, effectivement. Après, et c'est là que Flavie me fait réfléchir, c'est que c'est vrai que par contre, sortir un jeu comme ça, oui, mais à condition d'en sortir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je veux pas uniquement que jouer à des jeux comme ça.
Oui,
ça
bien sûr. Non, ça, c'est vraiment voilà. Un jeu bah, voilà, d'apéro où on prend le train, on prend un petit jeu vite fait. C'est un jeu de poche. Ouais. Ça va pas être effectivement... Ouais, non.
Un jeu de poche.
Mais par contre, les dessins... Enfin, je trouve que le graphisme est très chouette aussi.
Ouais, ouais, c'est
on a
très...
ce côté comics un peu... Enfin, ouais, je trouve qu'il y a une vraie recherche.
Il y a une vraie finition.
Ouais,
c'est un
ça.
Jeu de poche bien fait, en
ouais,
fait.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
C'est pas juste marqué derrière toutes les cartes revolver noir, quoi.
Ouais,
il y a un vrai dessin derrière, c'est plutôt sympa.
Effectivement. Bah, merci beaucoup à vous tous et toutes.
Merci.
À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien. À bientôt.
Au revoir.
Salut.
Bisous.
Voilà, c'était le podcast de la Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.